Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Ces deux prochaines semaines, vous allez entendre le parcours de deux femmes exceptionnelles. Leur histoire est si intense que nous avons été obligés d'en faire plusieurs épisodes, chacun avec son lot d'émotions certes, mais surtout avec un message d'une puissance inégalable. Alison et Natacha se sont rencontrées il y a 8 ans et sont tombées amoureuses presque au premier regard. Dès lors, cette histoire fut une évidence. Leur vie, c'était ensemble ou rien. Elles parlent très vite de mariage, d'enfants, elles sont alignées sur toutes leurs envies. Une histoire digne d'un conte de fées. Mais parce que les protagonistes sont deux femmes, leur parcours n'est pas si simple pour fabriquer un bébé. Elles auront besoin de la médecine pour procréer, et elles savent que ça peut être compliqué. Qu'à cela ne tienne, Alison et Natacha foncent. Elles se marient et se lancent dans un parcours qui n'aura de cesse d'être semé d'embûches. Une première expérience vaine en Belgique, avec 6 inséminations infructueuses, un mot, endométriose, posé vite fait, et quelques milliers d'euros jetés par les fenêtres. Puis direction l'Espagne avec toujours ce mot, mais rien pour y remédier. Des fives, des échecs, des larmes, des espoirs qui partent en fumée, et deux femmes qui finissent par perdre pied. Heureusement, Natacha et Alison savent s'entourer. Parfois pour le pire, mais souvent pour le meilleur. Et c'est parce qu'elles ont été aiguillées vers les meilleurs qu'enfin, après 2 ans de parcours, l'endométriose de Natacha fut prise en charge et leur bébé a pu trouver le chemin de son futur foyer rempli d'amour. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café.
Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour Natacha. Bonjour Alison.
Bonjour.
Bienvenue sur Prenons un café pour cet épisode que bon, les auditeurs n'attendent pas, les auditeurs et auditrices n'attendent pas depuis longtemps, mais que moi j'attends depuis hyper longtemps. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes ? Vas-y Natacha.
Je m'appelle Natacha, mais je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise, passionnée par l'énergétique. J'avais un cabinet où j'accompagnais en individuel et je faisais des groupes, cercles de femmes, la lune, tout ça. L'énergétique, quoi.
Et Alison ?
Moi, c'est Alison, j'ai 33 ans et je suis kiné depuis 2 ans, donc kiné en reconversion à Quesnoy-sur-Deux.
Moi, je vais vous poser la question traditionnelle de Prenons un café, celle que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez individuellement, d'abord, toujours voulu être mère ?
Oui.
Oh, c'est un grand
oui.
C'est vrai, c'est quelque chose que tu as toujours imaginé.
Ah oui, ça m'a toujours fait vibrer. Je sais pas. D'ailleurs, j'ai commencé une thérapie le jour où j'ai voulu être maman. Je me suis dit, je peux pas refiler des blessures, des névroses à mes gamins. C'est maintenant que je peux travailler là-dessus, comme ça je me prépare. Donc tu vois, j'avais 20 ans.
Ah ouais.
Ah ouais, j'ai commencé
hyper tôt.
Ben oui.
Trop fou.
Voilà. Et en fait, dès que j'ai pu avoir mon permis pour aller chez le psy, ben je suis allée chez le psy parce que je me dis, faut que je me prépare pour les enfants.
Tu sais pourquoi ça c'est
certainement un lien avec mes parents.
Ouais.
Tu te rends compte que de toute manière tu vas faire des bêtises, que c'est comme ça parce qu'on est humain. Et il y avait des choses vraiment où je me disais, ouais, je suis en train de reproduire. J'avais 20 ans, je reproduis vraiment déjà des choses et je veux pas faire ça à mes enfants. Et il y a des choses que je veux donner, mais c'est plus facile de donner des choses que tu as apprises que de travailler sur des choses que tu veux pas transmettre.
Ouais. Et voilà. Dans ta tête, c'était quoi ton schéma familial ?
Dans ma tête, mon schéma...
Le schéma familial
pas
que
tu
voulais...
Pas du tout, celui-là. Je sais, j'étais très... un papa, un chien, et allez, 3, 4 enfants, parce qu'on est une famille, on est 4. Et j'ai trouvé ça trop bien, les 4 enfants. Par contre, d'être nombreux, je trouvais ça génial. Donc ouais, tout de suite dans les cases bien correctes.
Ouais, vraiment quelque chose de hyper traditionnel, quoi.
Très tradi.
Ok. Et toi, Lisa ?
Ben moi, je pense qu'au début, je ne voulais pas trop parce que je me suis dit, ouais, j'étais avec des hommes avant d'être avec des femmes et vraiment, ça a été un épisode très rapide. Je me suis beaucoup volé la face sur mon homosexualité quand même parce que ce n'était pas très bien d'être homosexuel. Ouais. Donc, je pense qu'au début, je n'avais pas envie parce que je me dis, ouais, va falloir que je porte un enfant et tout, va falloir que je sois enceinte. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que j'envisage, quoi. Et en fait, avec l'homosexualité, je me suis dit, bon, en fait, non, je peux trouver une femme qui veut porter un enfant. Ouais. Et ouais, ce qui s'est passé.
Il y a aussi le fait qu'on en parlait. Moi, la toute première copine que j'ai eue, je me disais, donc on peut avoir des enfants. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. T'es homosexuel, t'as pas d'enfants. Avant, c'était un peu.
Tu imaginais ça comme ça?
Ouais, c'était un peu. Bah, en tout cas, on nous a posé plusieurs fois la question. Moi, je sais pas si tu te rappelles.
Ouais, et puis moi, la première chose que quand j'ai dit à ma mère que j'étais. Ouais. Bon, qui se doutait, bien entendu, que j'étais avec une femme, je faisais genre, j'étais avec un garçon, mais bon, elle a bien compris. À un moment donné, elle m'a chopé, elle m'a dit, c'est quoi ton délire? Et donc, je dis, oui, effectivement, t'as une fille. Et elle me dit, mais tu te rends compte que tu pourras pas avoir d'enfants? Ou un truc comme ça.
Mais c'est vrai que au tout début. Quand tu te découvres avec une femme, tu te dis ouais non mais c'est juste un délire sexuel parce que de toute manière je peux pas fonder de famille, je peux pas avoir une vie normale, enfin normale
traditionnelle
comme ça. Donc c'est juste comme ça pour le délire. Ou...
T'aurais été, enfin dans ton imaginaire à ce moment-là, c'était t'aurais été prête à renier un petit peu ce que t'étais pour être avec un homme, pour avoir des enfants.
Oui.
C'est fort.
Bah oui, parce qu'en fait, l'envie de porter un enfant, l'envie d'avoir des enfants, et en fait, la difficulté d'être différent, en fait, parce que on est différente, même si on a une vie tout à fait acceptée aujourd'hui par nos familles, nos amis, enfin, je veux dire, ça se pose même pas la question. Il faut assumer, c'est pas facile. Se donner la main dans la rue, dans toutes les rues, dans toutes les villes. Ben, y a des moments où tu te dis ben, en fait, c'est beaucoup plus simple d'être hétéro et personne ne te voit. Moi, personnellement, j'aime bien passer parfois discret. Quoi.
Vous m'avez parlé individuellement de vos désirs. Moi, je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés et à quel moment vous avez abordé le sujet de la maternité qui, pour toi, avec une femme, n'était pas évident dans le sens où tu ne pensais pas que c'était possible.
Non.
Et pour toi, où, tant que ce n'est pas toi qui porte, c'est bon.
Ouais, c'est clair, c'est un peu ça. Alors, la base des bases, on faisait du rugby, toutes les deux. Moi à Marquette, Natacha à Roubaix. Et une des meilleures amies, Natacha, Marie-Lou.
Entremetteuse.
Entremetteuse. Sans elle, rien ne serait possible. Tu nous écouteras, donc merci encore. Nous, on jouait à un niveau au-dessus. Et donc, du coup, Marie-Lou est venue essayer dans mon équipe. On fait les essais, tout ça, machin. Marie-Lou, on s'entend très bien, nanana. Et Marie-Lou se marie. Enterrement de vie de jeune fille. Natacha était témoin. De base, je n'étais pas invitée. Et puis, je reçois finalement un texto 2-3 semaines avant, à peine.
Finalement, elle t'aime bien.
non, mais...
Marie-Lou parlait tout le temps de Alison.
D'accord.
Parce qu'Alison, c'était la capitaine de rugby, de l'équipe. C'est une femme magnétique. On a envie de...
On voit qu'elle est amoureuse.
Ouais. Non. C'est le genre de femme qui rentre dans une pièce et tout le monde fait oh, « je veux trop qu'elle m'aime.
Okay.
Elle est trop belle. » Mais c'est ce charme comme ça. Et Marie-Lou était tout le temps en train de parler d'Alison. Et j'ai dit... Attends, tu parles tout le temps d'elle, elle n'est pas invitée dans ta liste. Elle avait invité Bandana, j'en invite deux de plus, c'est pas grave. Il y avait une autre copine qui était là. J'étais avec un homme à ce moment-là.
Ok.
Ça faisait 10 ans que j'étais avec.
Ah ouais, quand même.
Mais oui.
Ah
moi, oui. J'ai eu beaucoup
avec,
de...
Elle précise pas.
Avec
mais
précision.
Avec beaucoup de...
De haut et de bas, ouais.
De séparation.
Où j'ai été infidèle, puis vice-versa, enfin tu vois.
Ouais, mais quand même, au global, c'est un...
Ça représente 10 ans d'histoire.
Rouge de 10 ans.
Ouais, voilà. Voilà, exact. Donc... je suis invitée à l'EVGF, pardon. La soirée se passe, et à un moment donné, je dis à Marie-Lou, je dis, t'as témoin avec son petit boule dans son jean rouge. Je dis, je peux y aller ou pas? Et elle me dit, vas-y, fonce. Sachant qu'elle était qu'avec son mec, quand même.
Oui, mais si c'est ta meilleure amie, elle savait.
Elle savait très bien.
Donc elle me dit, vas-y, fonce. Moi, ni une ni deux, vas-y, je vais lui chercher un mojito, tata. Enfin,
donc tu l'as fait boire, on a compris.
Je conduisais tout le monde, donc j'avais pas du tout bu. Donc
on avait bu du rhum arrangé, j'avais fait exprès de lui garder un peu de rhum arrangé, comme ça j'ai dit t'inquiète pas, je t'en prends pour dans la boîte, non, et tout.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Oui,
pardon,
consomme avec modération.
Et donc j'y vais, j'attaque, elle me dit je t'arrête tout de suite, je suis avec quelqu'un, laisse tomber. Gros râteau.
Ah, t'es cash, toi.
Bah, mais attends, je t'explique la stratégie de la séduction. T'as une femme incroyable que tout le monde aime. C'est-à-dire, on est 20 nanas. Franchement, je pense que je peux faire un sondage. Il y avait 15 femmes qui étaient perturbées par le charme d'Alison.
Ah ouais,
ouais.
C'est marrant.
Et, ouais, je sais pas, elle fait ça. Elle produit ça. Tout le monde a envie d'être draguée par Alison. je me fais draguer.
Mais comme souvent, quand il y a une homosexuelle, les gens...
Oui, c'est vrai, c'est un petit game. Voilà, on joue à draguer l'homosexuel. Et puis, tu sais, c'est un petit jeu entre les homosexuels et les femmes.
Enfin,
entre femmes.
Pas toutes, mais...
Non, ouais, mais j'apprends, j'ai jamais joué ce jeu.
Écoute, on peut te faire dans ta tête. Il y a le plaisir de l'hétéro d'aller séduire une homosexuelle et peut-être d'aller goûter une expérience sexuelle entre femmes. Et il y a le plaisir de l'homosexuel d'aller détourner une hétéro.
D'accord.
C'est pas tout partout pareil.
Non, mais c'est quand même connu. Voilà.
Ok.
Voilà. Je mets un stop volontaire. Je sais que c'est une femme de défi. Donc si je ne mets pas un stop et que je suis trop facile à avoir...
Ça va être un coup d'un soir.
Eh oui. Et ça ne... Bon, j'étais avec quelqu'un, donc je voulais vraiment être fidèle. Pour avoir été infidèle avant, je ne voulais plus jamais faire ça.
Et du coup, j'essaye quand même de me faire raccompagner, genre en mode, vas-y, raccompagne-moi. Je me suis dit... Sur un malentendu, je vais quand même réussir à la craquer pour qu'elle vienne. Pas du tout.
Pas du tout.
Et là, 3 jours après, je reçois un texto. Ça va, point d'interrogation.
C'était toi.
Oui, c'était moi. Je mangeais plus, je dormais plus. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, enfin, du coup, au troisième jour, j'étais au boulot. Et je travaillais dans un bureau à ce moment-là. Et il y a une fille qui dit, mais t'es amoureuse ou quoi? Tu manges pas? Parce que j'ai une bonne fourchette. Et là, je me dis, merde. Ça m'a fait vraiment bizarre. Et quand elle a dit ça en mode de blague, et là, j'ai envoyé un « ça va », j'ai écrit « ça va » et j'ai jeté mon téléphone et je suis partie aux toilettes, parler à des gens.
Et moi, je reçois le texto, je pose mon téléphone, j'envoie un texto à des potes, je dis « c'est bon, j'ai un date, les gars, genre c'est bon, j'ai gagné, quoi ».
Ah ouais, tu mets la charrue avant les bœufs et tout.
Ouais. Un petit peu. Parce qu'en plus, c'était pas trop mon intention. En fait, si, avec le recul, je sais que mon intention, c'était vraiment de la voir et d'être avec elle. Parce que j'étais complètement tombée amoureuse d'elle, mais vraiment, vraiment un gros coup de foudre. Et non, je voulais lui expliquer, meuf, tu fais du charme à toutes les femmes, tu peux pas jouer comme ça avec toutes les femmes. Parce que ça marche. Parce que ça marche, parce que c'est perturbant, et puis ça nous fait du mal. Et elle se rendait pas compte, je voulais surtout lui expliquer l'impact qu'elle avait sur même les hommes, un impact particulier. Je voulais lui expliquer. Et que j'avais été, du coup, victime.
Oh, pauvre femme.
T'es une petite malheureuse. Et je voulais lui expliquer, en fait. Mais elle pensait que c'était un date.
Ah. Mais tu voulais lui expliquer dans la vraie vie ou par texto?
Non, dans la vraie vie.
Oui, donc t'avais demandé un date. On est d'accord.
Ouais, c'était
un
date.
Moi,
j'aurais pris comme ça.
Ouais, je me suis pimpée de ouf. On a été boire un verre au Mother. Et en fait, au final... Elle essaye de m'expliquer ça, mais bon, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-ci?
je sais pas ce qui m'a pris, c'était une excuse.
Bah ouais, oui, carrément.
Ouais,
bah
ouais.
Et on finit par faire la fermeture du Mother, et on a parlé des enfants.
Alors que toi, t'étais encore en couple de ton côté, que tu faisais semblant de pas être en date avec Alison.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et ah ouais.
En fait, Alison, elle me disait, mais moi, je veux trouver l'amour de ma vie. Mais l'amour où tous les jours, elle brille dans ma vie, elle est belle, où je vibre pour elle. Enfin, elle me décrivait, je me disais, mais tu fais ça pour me draguer ou c'est vrai? Et en fait, à force de sa description, je comprenais bien qu'en elle, elle avait vraiment envie de vivre une histoire d'amour folle. J'étais complètement mordue déjà à ce moment-là. Donc elle te raconte ça et tu fais... Bah, j'aimerais bien vivre ça, cette histoire-là, et avec toi, ça serait cool. Mmh. Et on a parlé d'enfants.
Ouais.
Et elle a dit, je ne veux pas porter. Et moi, je me dis, mais je veux porter. Et dans la tête, je me dis, c'est plutôt bien synchro, ça, cette histoire.
Et alors, à quel moment tu as compris qu'en fait, ce n'était pas juste, je t'explique la vie, comment ça marche, et on ne peut pas jouer avec les gens comme ça. Ça ne se fait pas.
Non, ça ne se fait pas.
À quel moment, en fait, finalement, c'est devenu plus officiel? À quel moment tu as quitté, j'imagine? À moins qu'il se voit quelque part, mais...
Non, il a été quitté assez rapidement.
3 jours plus tard.
Jours plus tard. En fait, vraiment, l'histoire finale, c'est... Je me formais à la médecine chinoise à ce moment-là. Et j'ai fini mon week-end de médecine chinoise. Je rentre et Marie-Lou et Alison m'envoient une photo d'elles en selfie. Elles étaient en train de boire un verre. J'étais à l'arrêt de feu, au feu, là. Et elles étaient en train de boire un verre. Je reçois la photo, elles étaient en train de boire un verre. Là,
à
5 mètres, quoi. Et il y a une voiture qui part. Le feu devient vert. Bon, bah là, si, je comprends pas. Et donc, je me gare et je vais voir Alison. Et ce soir-là, on s'embrasse. Sauf que là... j'étais encore en couple.
Ouais.
Donc là, c'est un peu la crise. Donc j'appelle Marie-Lou. Surtout, Alison, elle ne m'appelle plus du tout. Je dois tout régler. Je dois régler ma vie. Là, ça ne va pas du tout.
Et quand tu dis « je veux régler ma vie », ça veut dire quoi ? Ça veut dire...
Faut que je quitte
Oui, c'est ça que tu veux dire. Non, parce que ça pourrait plus aussi être « non, je coupe les vannes et ma vie, c'est ça et je ne veux pas changer de vie ».
Mais je ne pouvais pas. J'avais déjà trop dans la peau. Fallait que je me donne la
chance
de vivre l'amour.
Il y avait une urgence un petit peu comme ça.
Ouais.
Ouais. C'est ce qu'on ressent. Enfin, c'est, je le ressens comme ça. Cette urgence de, en fait, quand la personne arrive, elle chamboule ta vie. En fait, il n'y a plus rien qui compte autour de toi. Et oui, je l'ai vécu. Il y a fort longtemps. Et en fait, tu quittes tout ce que tu as à ce moment-là et qu'en fait, ça ne compte plus. Et tu te rends compte que c'était rien, en fait, ce que tu avais comparé à ce que tu vas avoir.
Ouais,
en fait.
Ouais. C'est ça. Et tu, du coup, bah, l'amour... tant pis quoi, tu feras les sacrifices ou les trucs difficiles à faire, tu vas le faire quoi.
Et mais ça vaut le coup.
Ouais, et ça vaut le coup. Et ouais, encore aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir fait ça et je sais que ce serait pour des années.
Ouais. On va. Moi, je pourrais parler d'amour et de relations et de rencontres. ça pourrait être que ça, tu vois, le sujet du podcast.
Ouais,
moi, j'aime
c'est
ça.
Vrai,
mais donc, du coup, vous aviez parlé de ce désir d'enfant.
Premier date en vrai.
Premier. Ouais. Mais je ne sais pas comment dire, c'est comme si on avait fixé les bases tout de suite.
On avait à peu près tout évoqué le premier soir.
Wow. Et à quel moment vous avez eu envie de concrétiser ça l'enfant,
le
désir, le bébé. Parce qu'on est quand même un peu là pour ça.
Oui.
Vite fait.
Non, je
ne
vois pas.
Ça, comme ça. Non, parce que bon, c'est bien, cette histoire démarre. Après, voilà, ça vous appartient sur les chapeaux de roue, j'imagine très bien comment ça peut démarrer. Et voilà, vous êtes en couple, c'est officiel. Comment ça se passe? Enfin, je veux dire, à quel moment vous décidez de vous lancer dans... Genre, là, c'est le moment, est-ce qu'on y va? Enfin, comment ça se passe, tout ça?
Eh ben, en fait, on s'est rencontrés...
Avant, on avait entrepris toutes les deux notre orientation professionnelle.
Avant de se rencontrer. Et moi, je commençais le concours kiné en STAPS, et Natacha, elle se lançait à fond dans la médecine chinoise.
Donc on s'est retrouvés toutes les deux, sans le savoir, la vie faisant les choses. Ouais. Le 15 juillet, on arrête le travail toutes les deux, je vais la chercher à son travail. On a fini de travailler toutes les deux à ce moment-là, et on se lance dans notre nouvelle vie.
Ouais.
Donc, qui dit nouvelle vie ?
Dit pas d'argent. Et dit aussi, moi j'étais partie pour 5 ans d'études. Quoi.
Ah ouais. Oui, c'est pas rien.
Ouais.
C'est pas une formation de 6 mois. Quoi.
Non. Non, j'en suis sortie qu'il y a 2 ans, quoi.
Ouais.
Donc ça, et puis Natacha a lancé aussi son entreprise. Donc moi, je suis Natacha un peu moins. Je pense que si on avait écouté Natacha, on aurait essayé avant. J'avais dit, écoute, moi, pendant les études, je vais pas faire ça pendant les études, quoi. Ouais. Pour moi, c'était inenvisageable. Donc j'ai un peu mis un stop en disant, écoute, on en parle. On commencera les démarches, genre, vers ma dernière année d'études. On se lance.
Ouais, vous commencez les démarches, quoi.
On commence les démarches. Voilà, parce que on sait jamais si ça prend un peu de temps.
Lol.
C'est le moment où tu te dis pourquoi j'ai dit ça.
Ouais.
Et du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit, ok, je voulais faire les choses. Enfin, je sais pas si c'était que je voulais faire les choses bien, mais je m'étais dit que si on était mariés, ça serait plus simple pour qu'il y ait le même nom,
pour l'adoption.
Et puis, si on est mariés avant, ils verront qu'on est vraiment un vrai couple.
C'était encore... Enfin, c'est ce schéma, en fait, qui vous quitte pas, finalement.
Ouais.
Traditionnel.
Mais il y a aussi la notion de... disons qu'on va sacrifier 5 ans de notre vie pour pouvoir se réorienter, même si ces 5 ans-là, c'est pas vraiment un sacrifice, parce qu'on vit plein de choses. Mais l'air de rien, c'est... On revient à la vie d'étudiant alors qu'on a pratiquement 30 balais. Et ça devient hyper difficile à vivre. Et finalement, on a envie de faire un truc de grand.
Ouais.
Et donc, Alison, elle me demande en mariage 2 ans après.
Ouais. Et tu dis oui ?
Bah, j'hésite un peu, je vais vous dire la vérité. Non,
ouais, j'ai senti le doute.
C'est comme le premier date, tu vois, faut pas la faire espérer.
Ouais.
Non, j'ai dit oui tout de suite, j'étais trop contente, mais je me suis dit, ils vont débloquer nos parents, on se connaît que depuis 2 ans.
Ouais, 2 ans, ça va, non ?
Mais.
Je sais pas, ça me paraît pas si.
Ouais.
Bah, 2 ans, c'est pas beaucoup quand t'as genre 18 ans, tu vois.
Ouais,
mais
c'est
après...
t'as raison.
Ouais.
Tu vois ?
Mais 2 ans, et en fait, c'était pour se marier 2 ans plus tard, parce que nos 2 sœurs se mariaient en 2018. Et on s'est dit, avec les cadeaux de mariage, on ne s'est pas fait de voyage de noces. On a gardé l'argent pour le bébé.
Ça sera notre cadeau.
Et on s'était
cadeau.
Dit, voilà, avec l'argent qu'on a eu, on se dit, c'est bon, large.
Lol. Non, parce que, attends, parce qu'il faut quand même remettre dans son contexte. Quand tu veux un enfant, quand tu es dans un couple hétérosexuel, tu penses à la question financière pour l'après, c'est-à-dire ce que ça va te coûter en termes de matériel, ce que ça va te coûter éventuellement pour les études et tout ça. Dans le cadre d'un couple de femmes, enfin quoi que dans les couples d'hommes aussi, c'est un coût financier, dans un couple homosexuel, y a une question financière dès la conception.
Ouais, clairement.
Parce qu'on parle d'un moment où ce n'était pas autorisé en France. Donc, vous deviez aller à l'étranger et ça coûte combien ?
450, 500 euros si tu ne fais pas de...
Pour une INSEE.
Pour une INSEE.
Une INSEE, mais c'est-à-dire tu ne fais pas de stimulation, rien du tout. Parce que comme ce n'est pas autorisé en France à ce moment-là, il y a peu de gynécos qui sont d'accord pour faire des ordonnances remboursées par la Sécu parce qu'eux-mêmes se mettent en danger de nous aider, les homos hors la loi, d'aller en Belgique. Donc, si tu dois te payer des traitements de stimulation... La stimulation, tu as 1 000, 1 500 euros.
Mais surtout que c'est un peu indissociable. Je veux dire, quand tu fais une insémination, tu as de la stimulation.
Eh ben,
pas toujours.
Pas...
Ah ouais
non,
pas
toujours. On n'a pas eu.
Non, on n'a pas eu. Non,
parce que quand même, d'après ce que j'entends, mais dans tous les parcours de PMA, généralement...
Il y a la stimulation.
Bah ouais.
Oui, mais pas en Belgique.
C'est un peu problématique.
Ouais.
C'est ça le problème.
C'est que ça... C'est... Parce que quand même, la stimulation... Enfin, l'insémination, c'est quand même un apport de sperme, tu vois. Donc, t'as qu'une chance, finalement, d'avoir c'est... un enfant.
Il y a moins de chances qu'un rapport
qu'un
hétéro.
Rapport sexuel où tu peux faire la... 7, 6, 8 doses selon ton activité.
Ouais.
Voilà. Ça,
voilà. C'est en fonction. Chacun fait ce qu'il veut.
Voilà. Mais enfin, je veux dire, t'as quand même plus d'opportunités, on va dire, d'avoir une fécondation que quand tu fais juste une insémination. Ah, ouais. Donc, c'est en ça que la stimulation est importante, finalement.
Ouais. Exactement, parce qu'en fait, on se rend compte, quand on commence, on se dit « Ah, ben, don de sperme !» En fait, c'est 12% de chance.
Ouais, à peine.
À peine.
Vous disiez qu'en fait, avec l'argent que vous, vos proches vous ont offert pour votre mariage, c'était pour le bébé.
Ouais.
Oui.
C'était une somme de combien ? Vous avez eu combien comme...
Je crois que c'était 5 000 euros.
À peu près 5 000 euros.
Ouais, okay. 5 000 euros.
Avec ces 5 000 euros, ça va être très factuel, vous avez pu aller jusque...
6 inséminations
ouais.
non stimulées.
Ok.
Oui, parce qu'en fait, t'as l'ouverture de dossier, ça te coûte 700. Tu payes le sperme, j'ai plus trop l'idée en tête, mais ça doit être ça, ça doit être à peu près 500, 600 euros, je crois. Et après, 500 euros lancés. Donc ça, en gros, rien qu'avec la Belgique, on avait déjà épuisé notre réserve.
Ok, donc vous décidez de vous marier.
Ouais.
On se marie.
Ouais. Et vous donc décidez de lancer ce projet bébé juste après le mariage.
Ouais. Oui.
L'été, en fait, avant ma dernière année, comme ça, je me dis, bon, au pire, la fin de la dernière année, c'est du stage et après, c'est le rendu de mémoire et après, je bosse. Donc, je me dis, bon.
Si ça marche tout de suite.
Si ça marche tout de suite, c'est bon, ça sera la dernière année.
Puis surtout qu'entre le moment où vous décidez de vous lancer et le moment où il y a la première insémination, il y a déjà un temps.
Non, la première insémination est en juillet. On s'était déjà renseigné juste après le mariage.
Juin.
Ok. Oui, donc ça peut aller très vite quand même.
Ça peut aller très vite.
Ah ouais.
Ils sont pas du tout pour ça. Ça c'est cool. Ça peut aller très vite.
Bah tu payes. Hein.
Donc du coup voilà, vous faites ce parcours en Belgique. Comment vous vous sentez à ce moment-là, genre hyper confiante ou pas ?
En fait nous, je crois que dans nos vies, moi je considère bon, maintenant attends pas moi, mais je considère dans ma vie que tout ça a toujours été facile. J'ai eu mon bac facile alors que tout le monde m'a dit elle l'aura pas, je l'ai eu. Kiné, j'ai réussi à l'avoir le premier coup. Je suis passée par une passerelle, mais bon, voilà, j'ai quand même. Je me suis dit, bon.
C'est assez facile.
J'ai une bonne étoile.
La vie est facile, quoi, j'ai une bonne étoile. J'ai trouvé une femme exceptionnelle.
Je
me dis, bon.
Comme ça, en plus,
ouais,
dans une boîte de nuit.
Comme ça, dans une boîte de nuit, easy life, la boucherie, grosse référence. Et je me suis dit, bon, facile. Je me suis dit, avant que ça commence, je me suis dit, ouais, franchement, je le sens bien. Ça va aller vite.
Par contre, tu avais quand même dit, si ça va pas vite...
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué.
Ah ouais ?
Ouais.
Pourquoi ?
Je sais pas, elle avait cette intuition.
Qu'est-ce que tu voulais dire par là, toi ?
Je me suis dit que psychologiquement, ça serait compliqué. Si deux, trois fois, ça marchait pas...
Pour toi ou pour elle ?
Pour Natia. Ouais.
Et pour toi ?
Oui aussi. Oui aussi. Mais on vit les choses différemment.
Mais pourquoi tu penses à elle d'abord ? Enfin, je veux dire, en ça, je comprends, hein, parce que c'est peut-être elle qui le porte tout ça, mais encore que c'était une supposition de ma part, mais pourquoi ? Ne dis rien.
Bah, je sais que c'était un désir très fort pour elle, je crois, et je sais pas. Je sais pas.
Est-ce que tu t'es posé la question à toi ? Ne réponds toujours pas. Est-ce que tu t'es posé la question, toi, de savoir ce que t'allais ressentir si ça marchait pas ? Tout de suite, en tout cas.
Non, après, je connais Natacha, je sais que c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. J'avais l'intime conviction que ça marcherait. Mais je sais que Natacha n'a pas confiance en elle, qu'elle dit toujours « je suis nulle, c'est de ma faute », ta. Que je me suis dit « si ça ne marche pas tout de suite, on va partir dans des... Ça va être compliqué. Je ne sais pas pourquoi. » Et puis Natacha avait toujours super mal aux règles. On a toujours dit « non, il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas d'endométriose. »
7 ans en diagnostic.
Ouais,
7 ans.
7 ans. C'est bien ça.
Voilà.
C'est bien ce qui s'est passé.
Et du coup, c'est vrai que sur les premiers essais, en fait, entre le premier essai et le deuxième essai, il y a un kyste d'endométriose qui est apparu.
D'accord. En fait, le premier essai, j'ai perdu du sang avant les règles, très rouge vif. Ouais. Donc moi, de ma conviction, hein, les gynécos diront « Oh, ouais, un peu de sang ». Pour moi, ça avait marché, mais ça n'a pas tenu, du tout. C'était très précoce, mais pour moi, ça n'a pas tenu du tout. Et il y a un kyste d'endométriose qui a poussé dans mon ovaire gauche.
Mais vous l'avez vu, du coup, tu as des examens comme ça réguliers
En fait, depuis que 14 ans, même 13 ans, depuis que j'ai mes règles, j'ai vraiment très mal. C'est des douleurs que je dis toujours, c'est comme si j'avais des monstres qui tiraient à l'intérieur, des petits monstres qui grappillaient tout mon endomètre à l'intérieur et qui tiraient tout mon utérus, tout à l'intérieur. Et c'est tellement douloureux que je pleure, je crie, je vomis, je me vide, j'ai mal. On va faire l'IRM, il n'y a rien, tout va bien. Bon, après, je ne suis pas spécialisée dans l'endométriose, donc ça, c'est le grand truc sympa. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaîtront. C'est quand tu vas faire une IRM pensant peut-être qu'une IRM pelvienne, d'ailleurs, examen exceptionnel, hein. Tu dois faire un petit lavement, mettre du gel et tout ça.
Dans les fesses, dans la nuque.
Mm-hmm. Dans la nuque. Pour bien voir et tout. Bref, tu le fais parce que tu as mal, pour savoir. Et en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans l'endométriose qui regarde ton IRM. Donc, on vient de voir, on dit j'ai rien vu, mais bon, je suis pas spécialisée, hein, mais j'ai rien vu.
Et tu vas voir qui, du coup ?
Du coup, on fait comment ?
Vas-y, Alison, tu as levé le doigt, tu vas la parole.
Je viens de repenser à un truc. En fait, son père, quand elle était jeune et qu'elle avait était mal aux règles, il lui a dit t'auras du mal à avoir un enfant.
Ah ouais, mais pourquoi ? Il fait quoi dans la vie, ton père ?
Il est médecin.
Ah. Cadeau.
Cadeau de la vie.
Il n'aurait pas pu approfondir un peu.
En gros, t'as des problèmes d'hormones.
T'auras du mal.
T'auras un petit peu de mal à faire un enfant. Ou non, t'auras besoin d'aide pour faire.
Et peut-être qu'à ce moment-là, on parlait pas encore d'endométriose et peut-être que je sais pas. Puis sur ça dépend ce qu'il est comme médecin. Enfin,
médecin généraliste. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mais il a dit ça, certainement parce qu'il a bien vu.
Oui, bien sûr.
Et
avant qu'on commence, tu voulais absolument faire plein d'examens pour être sûr qu'il y a rien. Elle était persuadée.
J'avais tellement mal.
Arrête, tout va bien se passer.
Aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais les douleurs de règles ne sont pas normales.
Non, enfin, tu dois pas avoir.
T'es censé avoir une petite contraction vite fait, mais pas une douleur, tu vois. Pour connaître la petite contraction vite fait, c'est pas une douleur qui m'empêche de vivre, tu vois. C'est pas normal, ça. Alors qu'en fait, on a tellement dit aux femmes que c'était normal d'avoir mal pendant les règles, et tellement minimisé ce que c'était que les règles, finalement. Tu sais, quand t'es au collège ou au lycée, que tu as piscine, par exemple, on te dit, oh, ça va. Enfin, tu sais, on minimise toujours le truc, alors qu'en fait, c'est pas rien. Enfin, je veux dire,
il se passe vraiment quelque chose, en fait.
Oui, c'est pas. Non, c'est selon les femmes, c'est plus ou moins atroce. Mais quand c'est atroce, c'est pas normal, tu vois. Oui. Et ça, on ne le dit pas assez aux femmes.
C'est en faisant mes études de médecine chinoise que on faisait une partie gynéco et ceux qui ont mal aux règles, on dit mal aux règles. Alors, je sais pas, c'est notre expression avec Alison. Voilà, un peu bizarre cette expression. Mais ceux qui ont mal aux règles, c'est pas normal. Et, pourtant, j'ai vraiment mal. Enfin, je veux dire. C'est tous les 24 jours, parce que j'avais des cycles très courts. Tous les 24 jours, je ne peux pas te décrire comme je pleure. Mais...
Et puis, ce n'est même pas juste de la douleur. Tu disais qu'il y avait autre chose, des vomissements et tout ça.
Des migraines.
Des migraines horribles. Et puis, merci pour le partenaire. Tous les 24 jours, elle est encore malade.
Oui, mais bon, ça, à côté de ce que tu dois vivre, à mon avis, c'est
non,
pas,
bien sûr, mais j'ai du mal. J'ai pas envie qu'on vive ça ensemble. Alors que ça ne doit pas arriver, je ne sais pas comment dire.
Mais je comprends, il y a une forme d'injustice.
Ouais. Je ne dois pas être mal comme ça quand tu as mal depuis 13 ans. Et en fait, c'est quand tu as 32 ans, 31 ans. Ah, il y a l'endométriose. Hein. Bah, attendez, j'ai fait tous les examens avant de de commencer le bébé, de comprendre pourquoi j'avais mal comme ça. On me dit que tout va bien, que c'est dans ma tête. Parce que le problème de l'endométriose, c'est que les lésions peuvent être invisibles.
Ah oui.
En fait.
Ça peut être latent, quoi, finalement.
C'est latent. Donc oui, on connaît les cas très graves d'endométriose qui peuvent se répercuter dans tout le corps. Il faut être opéré, retirer des bouts d'intestin, ça va dans les poumons. Enfin, ça peut faire vraiment des dégâts. Mais par contre, quand c'est invisible, ça fait à peu près toujours la même chose, une inflammation et une douleur très forte. Soit à l'ovulation, soit aux règles, soit les deux. Mais on ne voit rien, donc il n'y a rien. Oui, mais je vous assure que j'ai mal. Et donc... Je vais aller un petit peu plus tard, quand on arrive en Espagne dans la deuxième clinique, parce que la première clinique, ça a été un échec. On est à la deuxième clinique et qu'elle regarde, qu'elle rentre la sonde, c'est-à-dire que tout le monde a vu mon utérus dans tous les sens du terme. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu une sonde dans mon vagin. Elle rentre la sonde, elle dit « Je suis désolée, je dois vous faire horriblement mal, je suis désolée. » C'était la première fois, alors que j'ai été auscultée, observée. Ça faisait 2 ans qu'on m'observait dans tous les sens et qu'on me faisait des examens. Et là, on te dit « Je suis désolée de vous faire mal, qu'est-ce que vous devez souffrir ?» Bah, j'ai fondu en larmes. Et là, on te dit « Waouh, c'est horrible, là, on ne peut pas faire tout de suite de bébé, là, tout de suite, on doit prendre le temps. » Parce que l'endométriose... Il n'y a pas de lésion forte d'endométriose. Par contre, il y a des adhérences partout. Il y a une inflammation très forte. Et là, ce n'est pas des conditions correctes. Mon utérus y a pris, du coup, en 20 ans dedans, il est parti. Forcément, il était rétroversé, mais il est parti en torsion. Donc, elle dit, vous ne pouvez que avoir mal. Enfin, ce n'est pas possible. J'ai pleuré.
Et en 2 ans de parcours,
c'était la première fois.
Première fois.
C'est...
Ouais.
Je n'ai même pas le mot, en fait.
Et pourtant, on en a vu des médecins.
Non, mais c'est quand même assez incroyable. Enfin, du coup, moi, ce qui me pose question, ce qu'on comprend, et je pense qu'on n'a pas besoin d'en revenir non plus sur la longueur du parcours de ce que vous avez fait, à quel moment et pourquoi vous avez décidé de changer de clinique? Parce qu'en Belgique, ça n'a pas marché la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi vous avez changé?
C'est notre gynéco-française. On était quand même suivis par une gynéco-française qui nous a dit, au bout de 6, écoutez, allez en Espagne, c'est les meilleurs. Et vraiment, ils sont au niveau européen, c'est ce qu'il y a de mieux. Bataillez pas. Elle nous a donné 3 noms de cliniques. Et en mars, juste avant le Covid, on a été visiter 3 cliniques, enfin 2 cliniques. On a regardé le prix. Il y en avait une qui avait 1 000 euros de moins. Voilà, on était bien dans les deux.
En termes de communication, enfin, ils parlent français?
Oui.
Ouais.
Ah oui.
J'imagine que c'est un business.
C'est le top du top.
Ah non, mais le service, c'est incroyable. Comparé à la Belgique, c'est hallucinant.
C'est un truc de fou. C'est incomparable.
Ils répondent jour et nuit.
Vous êtes bien accueillis.
Ouais.
Ils sont gentils.
Parce qu'en Belgique, vous ne l'étiez pas?
Ils s'en foutent, en
fait. Ils s'en foutent, ouais.
Ah ouais?
En fait, on appelle à 7h du matin pour dire c'est le jour où on ovule parce que tu as fait pipi sur ton bâton ou tu as fait ta prise de sang. C'est le jour où tu ovules. Il faut appeler à 7h du matin. On te dit venez à 10h. Et puis on enchaîne les femmes, quoi. Tu sais, il y a des rideaux entre les lits. Voilà.
Ah, vous êtes tous dans la même pièce?
Ouais, c'est une pièce avec comme des petits box un peu séparés par des lits,
rideaux.
Ouais, des rideaux.
Et ils
ouais.
font l'insémination là.
Ah non, après ils ont
une petite salle derrière, ils font stérile, ouais. Et puis ils te sortent, ils te mettent dans le petit box en attendant parce qu'il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure après l'insémination. Voilà ce qui se passe.
Mais c'est pas la façon la plus optimale de faire un bébé.
Parce qu'on
fait. Il n'y a pas la magie, quoi.
Faire l'amour, pas l'amour.
Ouais, mais ça, tu vois, tu le savais, tu pouvais être préparée, mais il n'empêche qu'il peut y avoir quelque chose autour, un cocon, une bienveillance et autre chose.
Après, quoi qu'il arrive, c'est toujours dans une salle d'examen stérile, soit en Belgique, en Espagne.
Oui, mais bon, quand quelqu'un est sympa avec toi, c'est quand même plus sympa.
En Espagne, ils te mettent de la musique, tu as les paysages qui passent, il y a des infirmières gentilles avec toi, qui te font des petites caresses, elles te donnent la main. Alors, la première clinique, malheureusement, qu'on a faite, il y a eu le Covid, faciliter tout ça. Et du coup, Alison ne pouvait pas venir avec moi pendant le transfert. Donc,
j'étais dans la salle d'attente pendant le transfert.
Mais vous avez commencé les transferts, du coup, parce que Covid, en mars, non? Parce qu'on ne pouvait pas voyager.
Pardon, je rigole, parce qu'on est parti se confiner 15 jours en Espagne pour pouvoir faire...
Quand on repense à notre parcours, on se dit, mais on était complètement tarés.
Non, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, racontez-moi à quel point vous êtes complètement tarés.
En fait, du coup... on a commencé juillet, on a fait nos 6 bazars, janvier, on arrive en Espagne.
Mais vous avez enchaîné, janvier, tous les mois, quoi. Il n'y avait pas un mois de
presque tous les mois.
Tous les mois. Et de toute façon, c'était pas stimulé. Donc en gros.
Oui, t'avais pas, toi, de conséquences.
Pas stimulé, ils se disaient, oui, tout va bien.
Ouais. Du coup, janvier, on visite les cliniques, on choisit la clinique, ils nous proposent, c'est là où ils nous proposent en disant, elle dit qu'il y a une endométriose, vraiment, elle commence à mettre les mots, mais sans.
Sans le prendre en compte,
En se disant...
Il y a une endométriose, mais on va y aller aucun traitement autour, on y va quand même.
Et du coup, c'est là où ils nous proposent la ROPA, c'est-à-dire que c'est mes ovocytes qu'on va transférer chez Natacha. D'accord.
Mais alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais du coup, techniquement, l'endométriose empêche l'embryon de s'implanter, mais n'empêche pas l'ovule d'être fertile, si ?
Si.
Ah ouais. Si. En fait, il a été prouvé qu'avec l'endométriose, tu as une hypofertilité.
D'accord.
Donc, en fait, après, si tu as l'endométriose dans les trompes, dans les ovaires, ou c'est une adénomyose, c'est-à-dire l'endométriose dans l'utérus directement, donc qui
c'est
atteint
un truc en plus, ouais.
L'endomètre, c'est encore plus embêtant.
Mais donc, ils nous disent, écoutez, on est, comme il y a l'endométriose de Natacha, on n'est pas sûr de la qualité des ovocytes. Donc, si c'est une méthode qui vous va, on peut faire comme ça. Et c'est vrai que le premier soir où on s'est rencontrés, on avait parlé de cette méthode-là.
Ouais.
Et en fait, avec l'argent, en fait, on aurait voulu faire ça dès le début, mais on s'est dit, écoute, faut savoir que pour une ponction, donc c'est-à-dire ponction, on stimule, clac, 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 tous les ovocytes, ils prennent les ovocytes, ils les inséminent, ils les congèlent, plus un transfert, ça représente 6 000 euros.
Ok, une fois.
Une fois. Ah, et si on veut retransférer tout le reste, c'est 2 000 euros supplémentaires par transfert.
À chaque transfert.
Sans compter
plus le voyage.
Et sans compter le prix de la stimulation qui nous a coûté à peu près 1 500 euros.
Ah oui, c'était pas le même tarif, surtout que vous aviez imaginé les 5 000 euros. Quoi.
Voilà.
Voilà.
Hein. Donc on s'est dit
40 000 euros plus tard.
T'as dû faire beaucoup de consultations.
Il y a un moment, tu as une pression pas possible financière.
Bon, on a
été vraiment aidés.
Toujours beaucoup aidés.
Par nos mamans.
Ouais.
Nos mamans,
c'est chouette,
elles ont été vraiment incroyables pour ça. Il n'y a rien à dire.
Sinon, on ne serait pas là, vraiment.
C'est un bébé de la famille.
Ouais.
Et du coup, donc voilà pour le prix. Et donc ils nous proposent cette méthode. Et nous, on en avait déjà parlé dès le premier soir où on s'était rencontrés. Donc nous, enfin, c'était même pas une question. On a dit bah oui, pas de problème. Donc ponction. La ponction, on l'a fait le 6 mars
2020.
Macron parle le 12 mars. On est là-bas en Espagne. Je me souviens, ma mère, elle me dit, prends des masques, mets des masques dans l'avion. Je la regarde, je fais, tu racontes.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
On le prend, je le mets pas.
Ouais.
On rentre et là, tout ferme et tout. Heureusement, on avait fait la ponction. Ils avaient tout congelé. Donc, on avait 5 embryons de J5. Pour ceux qui comprennent, c'est bien.
C'est vraiment complexe.
C'est ce qu'il y a de mieux. On va dire ça comme ça.
Mais je crois que dans l'épisode qu'on avait fait il y a 2 ans, on parle de tout ça.
Ouais.
Et j'ai plus le numéro en tête, mais je le renoterai. Et si vous voulez plus d'informations hyper précises sur les techniques, en gros, de PMA, vous pouvez aller l'écouter. Il est toujours dispo et très qualitatif.
C'est bon, ouais, beaucoup
c'est
de détails.
Et là, on est déjà très longue. Alors là, je pense que
on va faire 2 épisodes, hein, les filles. Je vous dis tout de suite, on va faire l'épisode PMA, on va faire l'épisode grossesse, hein, parce que... Voilà.
Okay. Et du coup, donc là, ils nous proposent un repas. Et là, bim, confinement.
Ouais.
Alors là, nous, ça s'effondre. On a toujours quand même un peu cru au tout début, où c'était un peu... On s'est quand même dit, on va pouvoir faire quand même l'aller-retour, ça va se passer. C'était prévu... Je sais pas, fin mars, le transfert. Enfin, je sais même pas. Enfin, bon, bref. On pense quand même, Et au final, on arrive à voir l'Espagne. Au bout du premier jour, on dit, ouais, attendez, on n'est pas sûr. Et au bout d'un moment, ils nous disent, c'est bloqué, ouais. Terminé.
De toute façon, il n'y avait pas d'avion, les frontières étaient fermées.
Et pour le coup, l'Espagne, ils ont vraiment bloqué fort leur pays et tout ça. Bah, on attend, du coup.
Bah ouais. Et comment vous vous sentez avec cette attente-là ? Parce qu'il y a l'attente du test de grossesse.
Attends.
Mais il y a l'attente de, on ne peut pas le faire.
Oui. Là, ça commence à devenir difficile psychologiquement.
Quand on a commencé à basculer en Espagne, pour toi, c'était difficile.
Ça commence à devenir difficile, en tout cas pour moi. Et puis, Alison veut me préserver absolument, tu l'as entendu. Donc, elle ne pleure pas devant moi, elle ne me montre pas que c'est difficile. On vient de faire 6 essais, on part en Espagne, on paye des sommes astronomiques. Ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Et moi, je voulais juste faire un bébé avec un homme là-bas.
Ouais,
et en fait, ma vie, elle a basculé. Mais de toute manière, j'aurais recours à tout ça.
Oui, parce qu'en fait, même si tu avais été dans une relation,
ça aurait été la même chose. En fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est
peut-être
tout.
Même que tu aurais même mis plus de temps à t'en rendre compte.
Ouais.
Oui.
Plus de temps d'essai.
Plus
en fait.
De temps. Ouais. Ouais. C'est ce que je me dis. En tout cas, j'en suis presque sûre. Donc, on attend. Comment on sent ? En fait, notre histoire, c'est attendre. La PMA, c'est attendre.
Ouais.
C'est long et en même temps on se dit on va mettre ça à profit, on va prendre bien soin, je vais bien prendre soin de moi, je lance les cercles de lune, je travaille vachement, j'utilise plein de choses pour essayer de me reconnecter à ma féminité, l'œuf de Yoni, parce que évidemment il y a la médecine, mais évidemment je peux pas renier ma passion, je me tourne vers tout ça. Donc je me lance dans une formation de facilitatrice d'espace sacré. Donc on parle pareil qu'on peut faire une cérémonie d'appel d'âme, donc appeler une âme, parce que bon voilà ça c'est ma...
mais tu peux en parler,
c'est ma croyance et ma femme me suit heureusement. enfin heureusement, elle aurait pu ne pas me suivre, mais c'est vrai qu'elle était tout à fait OK. Et donc, avec un groupe, du coup, il y a un groupe de PMA qui s'est créé et j'ai proposé pour les filles qui étaient encore en attente avec moi de faire
pour
une
parler
cérémonie.
Du, je vais faire à chaque fois des rebonds, hein, mais pour parler de, vous voulez entendre parler du groupe de femmes, enfin fameux groupe de PMA qui a été créé autour du yoga, de la
c'est
fertilité
ça.
D'ailleurs, sur, à la Villa Yoga de Bondu dans la Haute-France, sur l'épisode de Charlotte qui en parle très bien. Je mettrai aussi le numéro, je crois que c'est 53, parce qu'en fait, j'ai eu deux Charlotte de suite, donc c'est soit 52, soit 53, mais c'est une des deux. Et elle en parle très bien de ça aussi, donc si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez aller écouter Charlotte.
Du coup, ce fameux groupe de soutien, c'est un soutien, et en même temps, c'est à qui le tour la prochaine, quoi.
Ouais.
C'est la
tu
peur.
Tu dis comme ça, toi ?
Bah, moi, j'ai dû quitter le groupe à un moment donné.
Au début, après, moi, je lui ai dit, c'est bon, t'arrêtes. Parce qu'en fait, elle tombait toute enceinte. Tout...
Chacun leur tour.
C'est un peu game, finalement.
C'est le but. Hein,
c'est le game. Mais après, quand sur le groupe, ça parle des grossesses et des machins, ouais. T'es là, bon.
Ça ouf. Devenait difficile sans vouloir.
Ah ouais, non,
c'est non,
pas,
c'est
pas
la
heureux
de
pour
personne,
les autres.
Hein,
non, c'est pas heureux pour les autres, mais ça te fait souffrir, quoi.
C'est le début de la découverte de la jalousie et de l'envie de je supporte plus les femmes enceintes, je supporte plus les bébés. Des femmes enceintes. Et alors là, à Covid, et pardon, hein, c'était
t'excuses
hyper
pas, pardon.
Difficile d'entendre les mamans dire « Non, mais j'en veux plus des gamins, quoi. » J'ai envie de dire « Mais moi, j'ai juste envie de faire qu'on me saoule, de râler de ça, de ces enfants qui crient partout, qui courent partout, qui font de la pâte à modeler. » Enfin, je sais pas. Et pourquoi tu te plains de ça ? Enfin, c'était je le comprends. Hein.
Non, mais alors, attends. Et on va faire un point tout de suite. C'est qu'on ne dénigre pas les parents qui se
oui,
sont
voilà.
plaints. Parce que moi, la première, je me suis beaucoup plaint.
Parce
que c'était légitime dans ta plainte. Tout comme ta souffrance et ta jalousie à ce moment-là, elle était aussi, en fait.
Ouais,
parce qu'en fait... Toi, ton désir, il est tellement fort que tout ce que tu as autour de la maternité, tu l'idéalises, en fait. Et que c'est normal, en fait, d'avoir ce sentiment-là.
Ouais, mais
et de détester toutes les personnes qui se plaignent de leur gosse alors que toi, tu rêves que de ça.
Mmh. Oui, c'est ça. C'était tout comme les gens... avant, quand on ne pouvait pas se marier, c'est bête, hein, mais les gens qui se plaignaient, oh, le mariage, machin... Bah ouais, en fait, moi, j'ai trop envie de me marier avec ma femme. Je l'aime tellement, j'aimerais tellement vivre ça devant tout le monde. Alors ça s'est débloqué, mais... Bah, c'est la même chose, en fait. Ouais. C'est de se plaindre des
choses... D'un truc que tu peux pas avoir, en fait, et qui est si accessible pour d'autres.
C'est si facile. C'est tellement de facilité. Donc, voilà. Donc, l'attente, on réalise qu'on est... Enfin, moi, je vais pas très bien. Et Alison, elle finit ses études, elle tient le coup.
Tu tiens vraiment le coup ?
Ouais.
Elle cache.
Ouais, non, si, en vrai. Et du coup... Donc là, on voit qu'il commence à dire « Ouais, ça va être levé, le confinement, mais on ne pourra pas se déplacer à plus, je ne sais pas combien, 100
kilomètres,
je crois, 100 kilomètres. » Début mai, moi, je devais me faire opérer de l'épaule mars. Ça a été recalé, sauf que heureusement, ça s'est levé lundi, le truc. Je me suis fait opérer le mardi, ou le mercredi. Donc, opérer de l'épaule, j'étais 6 mois avec le bras en écharpe. 6 semaines. Et je crois que 10 jours après l'opération, j'avais encore mes agrafes.
Il y a l'Espagne qui appelle en mode ça a l'air de se.
Si vous voulez, c'est bon.
Ça a l'air de se libérer là. Il y a un créneau. Vous venez, mais vous restez enfermé 15 jours pour pouvoir avoir le transfert d'embryon.
Donc on part 15 jours en Espagne. Moi,
on fait,
le bras en écharpe avec mes agrafes.
Et t'avais besoin de soins du coup.
Ouais, c'est Natacha qui m'a retiré mes agrafes
soins,
en Espagne. Non, mais n'importe quoi. Non,
avec les dents ou...
Je sais pas.
Non, mais on désinfectait.
L'infirmier
nous avait appris.
Nous avait appris.
Parce que c'était une urgence, en fait. Pour
ouais, ouais.
Alors
ouais.
que, objectivement, ça aurait pu
c'était
attendre
pas
un
une
mois,
semaine.
Tu vois.
Complètement.
Voilà. Même une semaine.
Mais je demande au groupe de PMA à ce moment-là, on nous laisse une parenthèse pour pouvoir y aller. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, je demande peut-être pas au bon groupe. Hein.
Peut-être, en effet.
fonce, vas-y.
En fait, et... On avait surtout peur que ça se referme.
Ouais.
Et on voulait notre
votre bébé.
Ouais.
On savait pas que ça allait s'ouvrir petit à petit. On s'est dit bah ça va se refermer, ça va se refermer. Il va y avoir un problème. Et donc on y va maintenant parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait. Quand t'as vécu le Covid et que un blackout, tu dis donc ça c'est possible. Donc déjà moi je pensais que c'était pas possible. Donc là on était dans une démarche un peu bon.
Ouais, et
on
puis
prend
c'était
on prend le créneau.
Ouais,
quoi.
Et puis on était contentes, on avait passé 2 semaines là-bas, enfermées, sympa. Et puis c'était un peu plus libre là-bas qu'en France, je pense. Et voilà qu'on reste 15 jours, et puis nous, on s'est dit, c'était notre premier essai FIV. On s'est dit, FIV, surtout avec un don d'ovocytes, c'est genre le dernier
le
stade.
Level,
ouais. Ouais, c'est
le dernier
level
stade.
De la fertilité.
Donc si là, ça marche pas, plus trop d'options.
Ouais.
Donc du coup, on s'est dit, moi je me dis, c'est bon,
premier transfert, clac clac, terminé, bonsoir.
On ramène notre bébé dans l'avion.
Voilà, on ramène le bébé, on va le chercher, on va le ramener. Et puis, en plus, c'est un J5, blablabla.
Ouais, ouais. Bon, échec et mat.
Échec.
Et là, entre-temps, à quel point on était tarés, hein. Entre-temps, on va voir une... Je sais pas si on le dit. On en parle.
Ouais, ouais, on peut en parler. Bah, ouais.
On a été voir une chamane.
Qui se dit chamane.
Qui se dit chamane, ouais. Alors, si un jour, il y a une chamane vers Sizouin, surtout n'y allez pas.
On n'est pas pressé, on ne donne pas de nom. Ouais, mais son adresse.
Je répète.
En fait, t'es tellement désespéré que tu te dis, et comme je crois un peu en l'invisible et tout ça, tu te dis, bah, on y va, on tente tout, quoi.
Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette chamane?
Eh ben, je vois des jumeaux, il y a des jumeaux. En fait, vous devez en implanter deux. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'être à deux. Ouais. Non, mais quand j'y pense.
Non, mais,
quand on en parle,
c'est de l'abus de faiblesse, clairement.
Ouais, clairement.
Il y a un moment.
Là, on est vraiment très faible à ce moment-là. Vas-y, mon gars.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bim, on y retourne en août.
Eh ben, on en demande deux, évidemment.
On te dit ça, qu'est-ce que tu fais?
Les teubés.
Parce que de toute façon, si t'en avais mis un et que ça n'avait pas marché, tu te dis toujours que c'est à cause de
ça.
Exactement.
D'où l'erreur, bref. Bon, c'est bref. Tout, on l'a vécu. Mais...
Ouais. Et donc voilà, vous retournez là-bas.
Donc là, ouais, le deuxième essai, il est en août. Donc on fait ça. En plus, c'était le 8 août, on s'est dit 8-8, l'infini, enfin n'importe quoi.
N'importe quoi. Tu cherches des signes partout,
ouais,
en fait.
Ouais, et puis on est dans la chambre 8, enfin... Taré. Et du coup, bon, bah, bien sûr, on en met deux, ça marche pas. Moi, ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je dis, bon, t'es connerie, t'es bien gentille, mais ça n'a pas marché. Donc, en fait, c'est quoi ton délire?
Pourquoi tu ressens aussi fort? Parce qu'elle était convaincue que c'était bon, quoi.
Ouais.
Convaincue.
Et du coup, on raccroche. Elle appelle entre-temps une de ses copines voyantes.
La chamane?
Ouais, la chamane. Elle rappelle Natacha en disant, c'est parce que vous aurez jamais d'enfant.
C'est terminé, vous pouvez arrêter. Vous n'aurez pas d'enfant, si ça marchera jamais.
Parce que je ne me suis pas trompée, enfin, voilà quoi.
Qui sont ces gens?
Qui sont ces gens?
Non mais, alors, parce que la médecine invisible et tout ça, ça a ses limites quand même.
Exactement.
Ouais, ouais, ouais. Et on peut travailler dedans et croire. Enfin, moi, je veux dire, tu sais très bien que je suis convaincue.
Mais c'est pour ça que je pense que c'est chouette d'en parler, vu que c'est mon métier, je pense que c'est chouette de dire, oui, en fait, là, il y a une limite.
Oui, il y a une vraie limite.
C'est en fait, tu prends le pouvoir en pensant que tu sais lire l'avenir, que personne ne sait lire l'avenir. Ouais, elle nous a appris notre pouvoir à ce moment-là.
Mais ça ressemble un petit peu, tu sais, au système de gourou dans les sectes, en fait.
Exactement.
Qui donne cette impression, enfin, qui manipule les gens en leur faisant croire qu'ils ont un pouvoir et un savoir particulier, alors que ce n'est pas le cas.
Ouais, puis quand tu es un peu
désespéré,
tu crois n'importe quoi.
Le moindre espoir, tu t'accroches, quoi. Ouais. Tu t'accroches à la moindre petite goutte, le 8-8.
Ouais, tout.
Moindre petit signe de...
Et quand ça ne marche pas, là, cette fois-là, où vous en implantez deux...
Celle-là, elle est hard.
Celle-là, elle est hard et Alison pleure pour la première fois devant moi.
Ouais.
Alléluia. Merci,
pourquoi elle est plus difficile, ça?
Parce que là, en fait, ils nous laissaient deux essais avant de refaire d'autres examens. Et je m'étais dit, il y a le truc aussi, ils te donnent toujours des statistiques. Hein, parce que voilà, on vous dit
ne jamais écouter les statistiques.
vous avez, au bout de deux essais, vous avez plus de 90% de chances de tomber enceinte. Dans leur stat à eux, tu vois.
J'imagine que c'est quand même pris par rapport à des gens qui l'ont vécu.
C'est par rapport à leur stade de leur clinique.
Tu es en Espagne, il faut vendre ta clinique qui est mieux que l'autre, qui est plus fertile que l'autre.
C'est comme les stades de lycée au bac, tu vois.
Ouais, exactement.
Exactement.
Nous, on est une meilleure clinique parce qu'on a 98%.
Ouais. Et du coup, tu te dis, putain, 90%,
on est bon.
C'est parti, quoi.
Ouais. Et en fait, deux, non. Et là, on doit refaire des examens. Et là, entre août et décembre, vide. Pas d'essai.
2020.
Parce que je dois faire deuxième vague. Je dois me faire opérer.
Non. Tu dois faire une hystéroscopie.
Je dois faire une hystéroscopie. Et là, pour le coup, moi, je commence vraiment à m'écrouler. Et puis, je vois Alison qui commence à lâcher. Donc, je commence à me dire, OK, je ne suis pas folle. Parce qu'en fait, c'est trop mignon d'amour de ne pas craquer devant moi pour me soutenir, pour me dire, bon, c'est déjà difficile pour elle.
Pour qu'il y ait
une force. Ouais. Mais en fait, non, moi j'ai besoin de voir que je ne suis pas folle parce que là j'ai vraiment cette sensation que je déteste mon corps, je déteste tout ce qui se passe autour de moi, j'arrive plus à toucher au bonheur alors que, enfin, il y avait quelques mois, quand on me donnait la question, on ne me posait même pas la question, je disais, mais qu'est-ce que je suis heureuse, mais j'ai trimé mes bordels. Je goûte les bonheurs de la vie, chacun. Et là, j'étais en train de redépendre, parce que je m'étais toujours promis de plus jamais faire dépendre mon bonheur d'une personne. Bon, bah là, mon bonheur est dépendait d'un désir d'un petit bébé. Et ça me faisait du mal. Et j'ai vu Alison s'écrouler aussi. Et là, je me suis dit, bon, on rentre vraiment dans le dur. Et ils vont me faire des opérations et ils vont continuer les examens. Et les
examens, il n'y a rien.
Ouais. Mais moi, j'ai une question vraiment, parce que ça, je pense que c'est dans beaucoup de couples, hein, y en a toujours un qui veut paraître plus fort que l'autre. Mm-hmm. Et c'est souvent celui qui ne subit pas médicalement. Est-ce que toi, à un moment, tu as eu l'impression d'être toute seule par rapport à ça?
Ouais, dans ce désir-là, en fait. C'est un peu mal au cœur de le dire, mais parce qu'en plus, Alison, elle était incroyable. Enfin, elle l'est toujours aujourd'hui, mais dans ce parcours, elle était incroyable de soutien. Mais t'as l'impression d'être folle, en fait. Ouais. Et puis, en plus, t'es allée voir une chamane qui a dit des conneries. Alors là, tu te sens vraiment encore plus ton estime de toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai été foutre, quoi. Oui, je crois en tout ça, mais je sais très bien qu'il y a des limites. Je le sais très bien. Et je me suis piégée moi-même. Et je commence à perdre pied. Alors, je fais plein de choses pour essayer de me retrouver. J'ai découvert la Kundalini Yoga, j'ai adoré, j'adore toujours d'ailleurs. J'ai fait d'autres pratiques qui sont venues contrebalancer, mais c'est vrai que je me suis dit, mais elle m'a acheté un sort ridicule parce que je ne crois pas du tout à tout ça. Hein. Je peux croire en l'invisible, mais je ne crois pas du tout magie noire, magie blanche, rien. Ça ne me parle pas. Et je ne le critique pas, ça ne me parle pas.
Donc tu n'aimes pas Harry Potter?
J'adore, on adore Harry Potter, je rigole, on adore regarder
Y arrêter. Je ne publierai pas ce podcast.
Mais je me rappelle de la souffrance et d'écrire. J'ai un texte j'écrivais souvent où j'ai écrit ma souffrance. Et j'ai même pas su la relire dernièrement parce que je me dis, mais c'est pas possible. C'est juste attendre un bébé. C'est juste un désir de bébé. Ça va aller. On se calme. Je le répétais souvent, Alison. Mais...
Ouais, c'était devenu obsessionnel sans que ça le soit. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, quand t'arrêteras d'y penser...
Il n'y a pas non plus tellement de temps que ça, en fait,
non,
finalement.
Non,
c'est
non.
Un an, là.
Un an.
Oh, bon, bah, vous, si tu avais dit juillet...
Un an, mais en fait, il y a la notion, on est déjà en FIV.
Ouais.
Et tu sais que c'est la dernière étape.
T'es déjà en FIV et t'es déjà en don d'ovocytes. Ouais. Donc t'es au max du max de la fertilité.
Ouais. Ouais. Je pense que c'est plus ça qui stresse que de se dire...
Mais ceci en passant, vous avez quand même fait les 6 premières fois où... alors, c'est toujours avec le recul, hein, toujours, mais qui était de toute façon... Enfin, c'est presque...
On a perdu de l'argent pour rien.
Oui, voilà. On a acheté de l'argent par les fenêtres et du coup...
ça valait pas
vraiment se méfier
coup,
des cliniques belges.
S'il n'y a pas de stimulation, il faut se méfier quand même parce que les inséminations peuvent marcher, mais avec...
Globalement, la Belgique, il ne faut pas...
Alors, il y a des... Je pense que ça dépend vraiment,
ouais,
je pense, des cliniques.
Pas
parce
faire
que
de généralité.
Il y a des cliniques qui sont vraiment très bien. Et, non, mais je comprends. Mais après, c'est l'expérience qui parle et c'est votre trauma aussi. Enfin, je veux dire, il faut mettre le mot sur ce
qu'il y a. Et d'autres retours qu'on a eu aussi.
Mais il y a aussi, pour l'avoir vu aussi, des cliniques très bien où ça se passe.
Ouais, c'est vrai.
Hyper bien et il n'y a pas tout ça. Mais... Mais ouais, est-ce que vous êtes suivie, vous, à ce moment-là, psychologiquement?
Oui. Alors, c'est pas une vraie psychologue, comme on entend, psychanalyste. On commence toutes les deux avec la même personne, mais chacun de notre côté.
D'accord.
Comme ça, elle connaît la problématique. Elle-même fait de la PMA. Et donc, on va la voir toutes les deux. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup, vraiment, à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, je commence à avoir une pratique énergétique tous les matins beaucoup plus forte pour moi, où je fais du yoga, je chante mes mantras. Alison, elle comprend que je me raccroche à ça, j'ai besoin de ça.
Et il nous reste 2 embryons.
Ok.
Donc, on devait partir au ski, mais énième vague. Et en fait, on s'était dit, si on ne part pas au ski, on part juste avant Noël et on fait un essai.
Attends, du coup, tu avais fait tes examens?
Oui, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien. Il voit rien. Tout va bien.
Et du coup, la clinique nous dit, on continue pareil.
Ok.
On continue, même traitement, même dosage, tout
ça
pareil.
Ça viendra avec le temps, quoi.
Exactement. Il n'y a pas de raison. Ils nous disent, texto, il n'y a pas de raison, ça va marcher. Là, les taux se resserrent un peu, parce que je me dis, putain, il en reste 2. Puis, il y a quand même pas mal de gens de notre entourage qui disent, au pire, si ça ne marche pas avec Nata, vas-y, t'as qu'à le faire.
Ouais,
ah non, t'as qu'à changer de meuf.
Ouais,
pas con.
Tu peux essayer à une meuf fertile, quoi. Franchement, elle est infertile. Mettez-la dans la poubelle, celle-là. Jette-la.
Non, c'était plus en mode, toi aussi, tu peux porter, vas-y.
Ouais, là, c'est le moment où on commence à mettre la pression à Alison.
Mais un petit peu, enfin, voilà. Ouais. Deux, trois fois, je l'ai entendu deux, trois fois.
Ouais, ouais.
Bon, voilà. Et puis, c'est vrai qu'on refait l'essai en décembre. Ça marche pas, il en reste plus qu'un. Bon, on se dit, on se grouille, on le fait.
Et... Ah ouais, le côté vitesse, enfin, genre, il fallait que ça soit fait.
Non, on se grouille, on l'a fait en mars, hein, j'ai envie de te dire.
Ouais, mais en
décembre,
vrai,
mars, ça fait trois mois.
Ouais, mais attends, parce que t'as de la stimulation et t'as tout ça, enfin, t'as le corps qui morfle un petit peu.
Ouais, ouais. Encore, et aujourd'hui, je t'assure qu'avec le recul, je me dis, on aurait pu aller encore plus vite.
Ah ouais?
On aurait pu gagner du temps. Pas pour avoir le bébé, mais pour passer ces étapes et changer de clinique,
oui,
en fait.
D'accord.
Oui, en fait, il y a un côté où on se dit, bah, plus on essaye, plus on a de chance que ça marche.
Bah, faut y aller, quoi.
De toute façon, si t'essayes pas, ça marchera pas.
Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et t'as un bébé, un embryon qui t'attend. Ouais. Enfin, moi, c'est ça que je visualisais. Mmh. Hein. Je vais chercher un bébé, quoi. Donc, à chaque fois, c'est, bah non, il n'y a pas de bébé. Il n'y a rien, ton corps ne réagit pas.
Ouais, et puis il y avait aussi toute cette notion de quand est-ce qu'on le fait ? Avant les vacances ? Après les vacances ? Parce qu'après les vacances, ouais, t'es détendu. Avant les vacances, bah, t'es un peu stressé. Mais au moins, tu te détends en vacances. Et puis si t'as le résultat en vacances, bah, c'est moins grave.
Enfin, faut y pas avait... trop marcher. Et si tu vas trop marcher ? Et puis tu pourras pas boire d'alcool. Donc il faudra...
Ah oui.
Donc en fait, c'est toute ta vie tout est calée là-dessus. Et on nous a toujours dit, mais surtout, ne calez pas votre vie là-dessus, n'y pensez
pas.
Pardon,
mais en PMA,
et surtout,
n'y pensez pas. C'est quand même le truc qui est le moins possible au monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement...
Et on disait, ok, on va essayer de pas y penser, on va quand même faire les vacances et se détendre. Et...
Surtout
et...
quand tu dépenses à peu près 3 000
balles. Non, mais tu vas
balles.
Pas prendre un avion en mode YOLO, genre j'y pense pas, enfin, ça n'existe pas, fait qui fait ça.
Mais tu ne peux même pas t'imaginer le nombre de fois.
Ouais. Bah,
c'est
peut-être parce que
vous y pensez trop.
Hein.
Non, mais alors, c'est les gens qui vous disent ça, ils ont des enfants ?
Oui.
Ouais.
Ouais, ils ont eu des enfants très rapidement, parce que je suis désolée, mais... Oui. Pourtant, moi, je suis tombée enceinte très vite. Hein. Mmh. Mais à la seconde où on a décidé d'avoir un enfant, c'était 24 heures sur 24. Ouais. Et ça n'avait rien à voir avec le fait d'y penser ou pas.
Oui, oui.
Ben non.
C'est juste que c'est tellement ton projet de vie. Enfin, je veux dire,
c'est ça.
Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui chamboule plus que ça ? Je ne pense pas.
Oui.
C'est tellement ton truc que tu ne peux pas dire « j'y pense pas ». C'est pas vrai, ça n'existe pas.
Puis là, il y a un engagement financier, un engagement émotionnel plus. Au plus t'avances, au plus c'est difficile, quoi. Parce que t'accumules, et au bout d'un moment, bah non, tu peux ne pas y penser.
Ouais. C'est pas possible.
Impossible, tout tourne autour de ça. Et puis en plus, c'était le Covid. Donc, t'avais le Covid, pas de transfert.
Ouais.
Donc, t'avais tout payé, les billets d'avion, machin. Et en fait, ils disent, bah non, t'as le Covid, pas de transfert. Donc,
on était stressé du Covid, fallait pas.
Du coup, est-ce que vous êtes renfermé sur vous ?
Ouais,
vous voyez par
complètement.
On s'est réduit à la famille et quelques couples de copains, quoi.
Ouais. De toute façon, moi, j'arrivais
qui
plus
n'avait
à avoir des gens.
Oui, qui n'avaient pas d'enfants.
Ouais, on évitait les gens.
Et qui n'étaient pas en projet d'avoir des enfants.
Parce qu'il fallait pas aborder le sujet.
Pas aborder le sujet, mais c'est vrai que...
Mais il fallait pas avoir la
souffrance devant les yeux. On voulait de la légèreté, en fait.
Ouais.
Et c'est plus léger quand c'est des gens qui parlent pas d'enfants H24.
Et c'est pas que c'est pas qu'on n'aime pas les gens qui en parlent.
Non,
c'est
mais
que
c'est une souffrance qui est là et qu'en fait tu peux pas faire autrement.
Mm-mm.
Ouais, et c'est une forme de protection aussi.
Ouais. Non, mais carrément. Et puis on dénigre pas. Enfin, dire
ouais.
Ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que, mais de manière générale, hein, sur tous les sujets, c'est pas parce que toi tu vis quelque chose que tu juges ou que tu penses mal de ce que les autres vivent ou pas. Enfin, ça
tu
n'a rien à voir.
Tu peux pas juger la souffrance de l'un ou de l'autre. Il y en a qui ont
c'est
des
pas possible.
Terribles avec. Un simple chagrin d'amour, mais chagrin d'amour.
Mais voilà, ça peut être destructeur aussi. Mmh. Et en fait, non, il n'y a pas de jugement. Et ce n'est pas parce qu'on raconte sa souffrance qu'on nie la souffrance des autres, en fait.
Mmh.
Et toutes les souffrances sont légitimes.
Mais du coup, c'est vrai qu'on a perdu quelques amis à ce moment-là. Parce que pas la force de sortir, pas la force de faire semblant. Non, je n'ai pas envie de rigoler. Ce n'est pas drôle. Là, ce n'est plus drôle.
Ouais.
Là, c'est... C'est travailler pour payer ça, c'est on loue une maison, on a changé de vie pour vibrer notre passion. Alors on vibre notre travail, mais...
Après moi, entre-temps, j'ai commencé à travailler, du coup...
Ça avait commencé à nous aider un peu.
Ouais. Et c'était plus facile, parce que c'est vrai que payer le transfert à 2000 euros plus le voyage, ça commençait à devenir costaud.
Ouais.
Et heureusement, j'ai commencé à travailler. Ça a été beaucoup plus facile pour payer.
Ouais. Bah oui, carrément.
Donc voilà, on décide de faire...
Le dernier
transfert.
Bah, faut le faire, on va pas...
Pas avant son anniversaire, parce que forcément, Noël, anniversaire,
ouais.
Tout ça, c'est toujours super sympa.
Bon, là, on entame quand même un grand désert où t'abordes tous les sujets de pourquoi ça marche pas psychologiquement, parce qu'on dit souvent que c'est... que tu fais un blocage psychologique parce qu'il faut pas y penser. Tu remets à plat toute ta vie en disant, bah ouais, c'est de ma faute. c'est de ma faute, ça marche pas. Parce qu'en fait, si c'était pas de ma faute, on me parlerait pas de mon lien avec ma maman ou mon papa ou mes frères et sœurs, enfin on s'en fout. Ou avec mon homosexualité. Si c'était que mécanique, on parlerait pas de ça. Mais on en parle. Et donc au bout d'un moment, bah, tu finis par dire bah, désolée, je vais être. Mais je suis qu'une merde, quoi. Je suis qu'une merde. Je suis incapable de dépasser ça. Et elles y arrivent toutes. Et moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à dépasser les blessures qu'on peut tous avoir avec nos parents. Ou moi, apparemment, ça s'est ancré tellement dans mon corps que je veux pas de bébé. Mais parce que j'ai fini par aller voir une vraie psy en maternologie qui m'a dit en première séance, mais votre désir d'enfant, vous avez pas vraiment désir d'enfant. Alors, il y a les chamans et il y a ça.
Non, mais par contre, sur quoi elle se base?
La peur, enfin, je sais pas, je me rappelle même plus, ça m'a tellement choquée. Et j'ai pris juste une deuxième séance, juste pour aller lui dire, ça m'a vraiment, vraiment fait du mal, ce que vous m'avez dit. Et je vous assure, je sais pas pourquoi je dois justifier que j'ai vraiment un désir d'enfant, mais je vous le dis, ça m'a vraiment fait du mal que vous ayez dit ça. Elle a compris et elle a switché et on a travaillé plutôt sur la projection de qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez maman. Parce que moi, j'arrivais plus à me projeter maman. Alison, elle arrivait à y croire.
En fait, au plus ça devient long, au plus tu culpabilises, quoi. Ouais. Et forcément, c'est de la faute de la femme qui porte. Enfin, c'est forcément de la faute de la maman parce que ça s'accroche pas, c'est forcément ta faute. Et ça devient vraiment lourd. Heureusement, on nous a mis sur notre route cette dame, Florentine, qui nous a vraiment beaucoup aidés et qui a dit à un moment donné, en fait, votre tête est à 80% dans la PMA, mais vous faites tout à moitié, en fait. Elle dit, vous êtes en PMA, votre parcours, c'est ça, faites les choses pour que ça marche, quoi.
Votre énergie, elle est à 80% dessus, mais vous faites comme si ça n'existait pas.
Et ça nous a fait switcher.
Et qu'est-ce qu'elle voulait dire dans ça? Parce que vous n'en parliez pas?
En fait, on a essayé de garder notre vie la plus normale possible, alors qu'on souffrait et qu'on n'était pas bien du tout. Toujours recevoir autant de personnes au cabinet, faire semblant de rien, que tout va bien, garder le sourire. Alison s'accrochait à fond à son nouveau cabinet, essayer de voir des gens, sortir, faire la fête, sourire aux gens, ouais, cool et tout. Et en fait, elle nous a dit respectivement dans les séances, mais vous sentez bien que en fait, votre énergie, elle est fixée sur ça. Oui, mais alors pourquoi votre vie n'est pas adaptée à ça?
Vous ne faisiez pas vraiment de place dans votre vie.
Je ne sais pas si on ne faisait pas de place, mais en tout cas, on ne faisait pas de place à la PMA.
Ouais. Oui, ouais. Non, mais pas pour un enfant. Hein,
du bébé, elle était là, il y avait une chambre, on avait changé de maison exprès pour le bébé. Enfin, pas que, mais aussi pour le bébé. Il y avait sa chambre, sa place de bébé, elle était là. Il y a des gens qui nous donnaient des affaires. Et le bébé, il était là, mais la place de la PMA, on l'a occulté. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis mise à l'arrêt, en fait, au cabinet. Parce que Alison, elle explique très bien.
Il y a aussi le fait qu'on fait le dernier essai, et là, ça marche pas. Et là, on est en vacances au ski, et on redescend dans la montagne pour...
Dans la vallée.
Dans la vallée de Dardan, pour aller faire la prise de sang. On remonte, on a le résultat à l'après-midi. Comme d'hab, c'est moi qui ouvre l'ordinateur, c'est moi qui ouvre le truc, et je regarde Natacha, je dis, c'est négatif. À chaque fois.
C'est Alison qui a regardé toutes les prises de sang. Toutes.
C'est
le fait
d'avoir à annoncer les mauvaises nouvelles.
Ouais.
Elle prenait cette espèce de relais, le capitaine du bateau, la force.
Donc on fait le dernier essai. Donc là, marche pas. Et là, cette Florentine, là, notre psy, on va dire, on lui dit, écoutez, c'est notre dernière. Elle nous suivait déjà bien et ça n'a pas marché. Et là, elle nous propose une visio. Et là, elle a bien tout suivi comment et on était suivi médicalement aussi. Ouais. Et là, elle a dit, arrêtez tout, changez de clinique. Je connais une clinique. Ils ont vu des trucs que jamais personne n'avait vu chez moi. Et je suis tombée enceinte au bout de le deuxième essai, je crois.
Elle était enceinte quand elle nous dit ça.
Ouais.
Elle nous dit, allez là-bas, donc à l'Institut Barnabé.
Elle était en visio avec elle. Moi, j'étais sur mon ordi.
Je regarde en même temps.
Je prenais rendez-vous.
Ah oui, tu prenais rendez-vous direct.
Ça, c'est ouais. Alison.
Je prenais rendez-vous en mode juste pour avoir les informations et tout ça, machin. Elle nous dit même, il y a un truc particulier dans cette clinique, c'est qu'il y a une garantie grossesse. C'est-à-dire que vous payez.
C'est génial. On a garantie grossesse. On veut une garantie grossesse.
Quand je vais te dire le prix, tu vas dire.
Ça a un coût, la garantie.
La garantie grossesse a un coût. Elle dit, il y a une garantie grossesse, c'est-à-dire que vous avez le droit à 3 ponctions. Donc, c'est-à-dire, on ponctionne, on dit une connerie, il y a 5 embryons. on transfère. Et ça,
trois fois.
Okay. Et si au bout de tout ça, il n'y a pas de grossesse,
au bout 18
viable,
mois. Oui, c'est-à-dire que si tu tombes.
Tu peux tomber enceinte, mais ça ne marche pas, ça ne compte pas. Ouais. Tu restes dans la garantie.
Ok. Mais tardive aussi.
Ouais. Il faut
bébé
que...
viable.
Il faut que le bébé
naisse vivant.
Voilà.
Vivant.
Exactement.
D'accord.
Garantie. Okay. Vraie garantie.
Il rembourse la totalité de ce que tu as avancé. Pas en voyage, en tout ça.
Mais pour
mais
le
les
prix
18 000 euros. Ça le coûte prix. 18 000 euros. Voilà.
Okay. Même plus au final. On a payé 19 000.
On a payé 19 000 parce qu'ils avaient prévu un don d'ovocytes autre que celui d'Alison si ça ne marchait pas.
Donc on regarde ce truc-là. C'était en mars. Et là, hyper bon feeling avec le médecin. Elle nous a regardés. C'est vrai qu'on a pleuré. Elle dit mais je vous le dis, vous serez enceinte. Elle nous l'a dit. Donc déjà,
c'était fou de s'avancer comme ça. Mais ouais. Elle avait l'air tellement confiante. Et c'est elle qui a dit aussi l'endométriose, oula, faut qu'on traite. C'est elle. Donc c'est devenu un peu notre déesse à ce moment-là.
Mais il faut dire qu'en fait, elle n'a pas dit quand, tu vois. Elle a juste dit, vous serez enceinte. Donc on va soigner ce qu'il y a à soigner. Et après, ça marchera.
On va faire du mécanique.
Ouais.
C'est pas votre tête.
Ouais.
Bah, c'est difficile quand tu es persuadée que. Enfin, ça fait 2 ans là.
Qu'on te dit que c'est toi, en fait.
C'est toi. C'est ton corps. Parce que les ovocytes d'Alison, ils vont très bien. Les embryons d'Alison, ils vont très bien. Donc, c'est ton corps qui ne va pas. C'est fou. Ouais. C'est fou.
Donc là, on fait le dossier pour rentrer dans la garantie grossesse parce que forcément, vu qu'eux, ils remboursent au bout du compte, quand tu rentres dans la garantie, c'est que...
Ils sont sûrs que c'est bon, quoi.
Bah, niveau business plan, c'est pas vraiment rentable.
C'est pas rentable, je pense pas que les comptables le suivent.
Non,
je crois pas.
Je suis pas sûre.
La garantie grossesse, c'est juste pour rassurer les couples, en fait.
Mais je crois que ça a un côté... Et puis, moi aussi, ça me met un côté où je me dis, bon, bah maintenant, on fait ça à fond. Et puis après, on parlera d'adoption.
Ouais.
Mais là, on y va à fond. Puis moi, je me dédouane un peu en mode, comme ça, je vais pas le faire.
Soulagement.
Soulagement. Plus.
Lâcheté.
Ouais, de ouf. Et je pense qu'il y a un côté où... Alors, Natacha, pessimiste, toujours très pessimiste. C'est ça qui était un petit peut-être un peu lourd pour moi.
C'est pas
dans ma nature. Hein. Ouais. Mais ça a été lourd pour moi. C'était vraiment toujours négatif, quoi. De toute façon, on va pas être pris dans la garantie. Je dis, mais il n'y a pas de raison qu'on soit pas pris dans la garantie. On était pris dans la garantie. Voilà, donc ils nous ont fait faire plein de tests, donc pour avoir le traitement le plus adapté possible à moi, pour que je réponde le mieux à la stimulation. Et c'est vrai que j'ai eu, sur 10 embryons séminés, j'ai eu 8 J5.
Ouais. Non, mais là, quand on arrive à l'Institut Bernabéu, il y a les cliniques de fertilité de l'Espagne et il y a cet institut.
Ah ouais.
Là, c'est assez, ça devient complètement barré. Les soins, ils font faire un test génétique à Alison, ils envoient le test. Enfin, c'est vraiment...
C'est très poussé.
Poussé.
À l'extrême, même.
À l'extrême. C'est d'une expérimentation. La médecine... dans son extrême...
La pointe de la pointe de la technologie, ça devient même une technologie. Quoi.
Pour rentrer dans le truc, on a dû aller en Espagne une première fois, faire les examens pour Natacha, ça nous coûte à peu près 2000 euros, je crois.
Ouais.
Pour rentrer, il faut absolument passer par ça.
Ils ne font pas confiance aux examens des autres personnes. C'est que cette clinique.
On dit, ouais, mais on a fait une hystérectomie il y a 3 mois. Ah non, non, vous la faites ici.
Hystérectomie,
peut-être
pas.
Je suis un peu con.
Ouais. Non, t'es pas.
Ça n'a pas marché, l'hystérectomie.
Ils n'ont pas fait l'hystéroscopie. Ils ont tout refait eux-mêmes parce qu'ils disent, en fait, un compte rendu, ça se falsifie, tu vois, aussi.
Ah ouais.
Alors, ils veulent tout faire eux-mêmes.
Et c'est tellement un business.
Ah ouais, c'est un business de fou.
Ah bah, tu vois le truc, le bâtiment est magnifique, ils ont les chaussons avec l'institut machin, la tasse, le bazar, ils sont tout habillés, classe, t'as ton interlocutrice française qui parle que avec toi.
C'est indescriptible.
C'est un business.
Ouais.
Mais d'un coup, tu rentres dans un cocon, et on te met en sécurité, et c'est de la médecine. Et on te prend au sérieux. On dit oui, t'as de l'endométriose. Oui, t'as une grosse inflammation. Oui, t'as mal. Et on va faire. Là, Natacha, on ne refait pas d'essai. Tu fais 3 mois de décapeptile. Donc, moi, en gros, on m'a accompagnée pendant 3 mois. Pendant ce temps, Alison, ils font un test génétique sur elle pour optimiser le meilleur don. Elle doit mettre du gel.
Ouais, je dois mettre un gel de testostérone sur les
cuisses.
Ils retardent
d'un mois. Ils retardent. C'est eux qui disent non, 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 on ne fait pas maintenant. Parce que les autres cliniques, c'est on y va.
Ouais.
Et ils retardent. Ils retardent à chaque fois. Ils attendent le bon moment, quoi. Et août, ça devient le bon moment.
Ouais, août, on fait un premier transfert. Et là, ce qui était bien par rapport à l'autre clinique, c'est que là, on avait une chambre pour nous. Comme une chambre d'hôpital, mais...
Pour vous.
Pour nous. Ouais, alors, de l'autre côté, Natacha l'avait attendu 3 heures dans une salle d'attente, surtout.
la première fois qu'elle a fait sa ponction, j'ai attendu 3 heures. Moi, je pensais qu'il était arrivé quelque chose, quoi. 3 heures, alors que c'est une toute petite opération de 15 minutes. Donc là, j'ai pu la voir tout de suite. On a pu avoir des résultats assez rapidement. Ils sont hyper gentils.
On a eu un petit déj. Enfin, vraiment, ouais.
Vraiment sympa, quoi.
Ouais.
Bon, en même temps, vous l'avez payé.
Tu payes. Ah bah, tu payes un bras.
C'est pas gratuit.
Ouais. Vous mais bon, de l'autre côté, on avait payé aussi.
Oui, aussi.
Et donc, bonne ponction, tout ça, machin. Et là, premier transfert, ils nous disent, bon, bah voilà, août. On prend une semaine de vacances avant. Parce qu'avec tout ça, forcément, quand on bosse, et moi je suis indépendante, bah, quand je bosse pas, bah il n'y a rien qui rentre.
Ouais. On prend moins de vacances quand même. Hein.
Donc, c'est que les vacances, en gros, c'est les transferts. Ouais. Voilà.
C'est ça. Et tout notre argent, c'est ça.
C'est
et encore, point. Heureusement, même en travaillant, heureusement, ma mère m'a aidée, la mère Natacha aussi. Ouais. Voilà. Et du coup, premier transfert, lol. Donc on fait une semaine de vacances, on rentre, on prend l'avion, on part là-bas, on arrive dans un hôtel
horrible.
Horrible. Ah horrible. Ouais. Il y en a à côté, ils ont fait leur affaire toute la nuit. Elle hurlait, la meuf.
Merde.
Elle en faisait beaucoup
donné,
trop pour que ça soit vrai.
Trop,
on y croyait
à
plus.
À un moment donné, j'ai tapé dans le mur en disant c'est bon, oui. Donc on n'a pas dormi la nuit presque.
On fait juste un aller-retour parce qu'on se dit c'est au mois d'août, donc on part à Alicante, donc
c'est une destination balnéaire.
Ça coûte un steak. Ouais. Donc on fait juste l'aller-retour, c'est-à-dire une nuit, et puis on fait le transfert, on reprend l'avion le jour même. Bon, faut pas faire ça.
Et puis là, elle arrive, on tombe sur le médecin qui était là, on tombe sur le chef de.
En fait, l'institut s'appelle Institut Barnabéou et on tombe sur Docteur Barnabéou. On se dit, bon, on va voir.
Si là, ça ne marche pas.
C'est ça, exactement.
Et du coup, premier transfert, Natacha est trop contractée et en fait, il nous explique à ce moment-là que si l'utérus se contracte, ça rejette les embryons. Ah. Et là, il dit, votre utérus est contractile. Et là, on commence à comprendre que tous les transferts qu'on a fait, potentiellement, ils étaient rejetés directement parce qu'elle a un utérus contractile.
Mais on le sait vraiment.
On l'a vraiment su à la deuxième fois, mais ils commencent à nous mettre l'idée la première fois parce qu'en fait, eux, leur truc, c'est qu'ils testent plein de trucs différents. Ouais. Donc, ils mettent un petit médicament en Natacha par voie anale. Et là, pour détendre en fait les muscles au niveau utérin et tout ça, pour que le transfert se fasse, pour pas qu'il y ait de contraction.
D'accord.
Et pour que, parce que si on touche un peu et que ça contracte un peu, après que ça contracte tout le temps et que ça rejette l'embryon. Donc, ils lui mettent ce petit médicament bien sympathique.
T'es sous anesthésie ?
Non.
Même pas.
Non, mais
on
ne
voit pas les transferts.
Il relaxe toute la zone périnée. Quoi.
Ouais.
Et moi, j'ai le droit d'être là au transfert. Donc, vraiment trop cool.
Exceptionnel. Première fois qu'elle peut voir un transfert.
Tout ça, ouais, c'était la première fois. J'étais trop émue et tout. C'était trop bien. Et du coup, ils mettent le petit bazar. On fait le transfert. Ça se passe nickel.
Pleine d'espoir.
Elle était un peu shootée parce que c'était un peu anesthésiant. Enfin, bon, bref. On repart pleine d'espoir. On prend l'avion. Et là, on arrive à l'aéroport. Elle me dit, ça va pas.
Ah.
Je sens que je vais devoir me vider.
Ah.
Et ça va pas. Donc je dis va aux toilettes le temps que je suis là. Dès que je vois que ça embarque, je t'appelle quand c'est vraiment
juste avant l'embarquement,
quoi.
Tu sais, bon moment.
Et là elle me renvoie un texto. C'est bon, je me vide et tout l'enfant.
Donc, il faut embarquer, sauf que tu te vides, t'es coincé aux toilettes.
Tu peux pas. Et puis en plus, tu as une période de Covid où si tu as le moindre pet de chien, pardon l'expression, mais tu peux se remarquer.
C'est vrai. Ouais. Mais du coup, j'arrive à me retenir un petit peu et à faire l'embarquement en rentrant dernière dans l'avion. Je rentre dans l'avion, je préviens tout de suite l'hôtesse que je dois déjà retourner aux toilettes. C'est-à-dire, j'ai juste eu le temps de. En fait, ils avaient tout détendu, quoi. Ils ont tout lâché. Donc,
tu retenais rien, quoi.
Effet secondaire, je retenais rien. Et je dis, je dois aller aux toilettes. Et donc, le temps qu'ils fassent tout l'embarquement, machin. Donc, je squatte le toilette. Et puis,
les passagers en rentrant.
Ah ouais, ils devaient être trop contents. Surtout, c'est juste. Bref. Ah, c'est l'anecdote, maintenant, on en rigole. Mais...
Oui, non, mais c'est pas facile.
J'en ai un souvenir vraiment amer aujourd'hui, quand même, parce que je sentais tellement mal. Et en fait. Le médicament me faisait expulser et donc me faisait contracter.
Ouais, puis en plus, on vient de faire le truc. Elle dit,
parce qu'il fallait que ça sorte.
Bon, ouais. Et puis t'as dit, c'est bon, ça contracte, c'est sûr, ça n'a pas marché. Je dis, attends, c'est bon, arrête tes conneries. Et donc là, on décolle et pendant le décollage, elle me dit, ça va pas du tout. Et il y a le petit bouton là pour appeler l'hôtesse. Ouais. J'appelle, je dis, faut qu'elle aille aux toilettes. Et donc elle a laissé aller en plein décollage et elle a passé 3 heures de vol aux chiottes, blanche, en sueur et tout.
C'était horrible. C'était enfin. Franchement.
Et elle m'a même dit, il va falloir qu'on appelle une ambulance. Je sais même pas. Enfin, ça va pas du tout et tout ça machin.
Parce qu'en fait, ça crée une espèce de contraction.
Et... Enfin, bref, on va pas faire trois heures sur le caca.
Moi, j'adore. Tu sais pas sur le caca.
Ouais, c'est un sujet important.
Ils avaient pas prévenu que ça pouvait arriver.
Bah, c'est un effet secondaire. Mais...
Ouais, mais bon.
Bah, quand on leur a dit, après, elle dit, bah, c'est possible que ce soit ça, c'est rare, mais ça arrive. D'accord. Enfin, c'est rare. Non, je sais plus ce qu'il nous a dit. Enfin bon, ça arrive.
Bref.
Et du coup. Au final, tu sors de l'avion, ça va mieux. Parce que là, on était... En fait, son frère habitait à Bruxelles à l'époque. Et on l'appelle en mode... On a atterri à Bruxelles en mode... T'as du smecta, t'as ce qu'il faut. Puis en plus, j'appelle ma mère entre-temps. Elle est pharmacien. Je dis, en fait, en gros, à partir du moment où ils font le transfert, ils considèrent que t'es enceinte. Donc, tu peux pas prendre de médicaments.
Oui,
bon, sachant, on n'en parle pas du tout. Mais là, en termes de traitement, Natacha, c'est anti-inflammatoire. Enfin, c'est des corticoïdes, aspirine, piqûre de Lovenox, piqûre d'ogène. Ovule de progestérone, piqûre de progestérone.
J'ai pas toute la totale là encore à ce moment.
Ovule, enfin bon, il y a un traitement de cheval.
Ouais.
Et si ça marche, c'est ça pendant 3 mois.
Oh putain.
D'où l'arrêt aussi. Parce qu'en fait, à un moment donné,
tu peux pas. Physiquement, c'est pas possible.
Donc il y avait déjà tous ces traitements là. Et en fait, en gros, on n'avait pas le droit de prendre plus de traitements que. Enfin, comme si t'étais enceinte, quoi. Donc j'appelle ma mère, je suis là, on peut prendre du spectacle. Elle me dit,
c'est plein de métaux lourds, il faut pas prendre ça.
Ça a été prouvé que maintenant, c'est pas ouf.
Bref.
Et bon, on appelle aussi une copine qui est médecin. Je dis ça pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, vraiment, branle bas de combat. Et au final, elle sort de l'avion, ça va mieux. Elle me dit c'est bon, trace, on rentre à la maison.
T'attends 10 jours.
Tu savais toi que ça n'avait pas marché.
Quand on te dit vous avez peut-être l'utérus contractile, faut pas contracter et que t'as contracté 3 heures d'affilée. Bon, voilà, mais t'as toujours l'espoir, y a rien à faire, donc t'attends 10 jours. Les 10 jours, on appelle ça les love days avec les copines de PMA, parce que c'est on
les jours de... potentiellement.
Ouais, on essaye d'y mettre du positif, mais c'est 10 jours très longs. Et négatif. Hein.
Négatif, et là ils nous appellent tout de suite en visio. C'est rien, on va essayer un autre traitement. Vous en faites pas. On essaie sur le prochain cycle. On va faire autrement. Par contre, cette fois-ci, vous venez 5 jours avant. Donc là, chaque fois,
et vous prenez pas l'avion juste après.
Exactement. Non, mais c'est vrai, ils précisent. Ouais. Vous devez rentrer cool. Donc vous prenez 1 ou 2 jours après le transfert. Si c'est noté, mon petit cœur.
Ok, bon. Du coup, et puis même nous, on s'est dit, on fait plus ça. Donc on n'est pas. Voilà. Et puis moi, quand on me dit, tu dois partir encore 5 jours avant, je me dis, putain, je dois reprendre une semaine. Bon, donc on essaye de caler ça sur le week-end. Ça nous arrangeait pas spécialement, mais bon, on cale ça sur le week-end. Comme ça, moi, ça me fait 2 jours de moins à poser, entre guillemets. Donc là, on part. Et là, pour le coup, d'habitude, on est tout le temps au même endroit, à peu près dans le même quartier. Et là, on n'a pas trouvé. Je sais pas pourquoi on trouvait pas ce week-end-là. On s'y est pris au dernier moment, un petit peu, je crois. Et là, Natacha, c'est tout le temps moi qui réserve les trucs, les bazar. Et là, Natacha, elle me dit, j'ai trouvé un truc. Et je lui dis, t'inquiète, je te fais confiance, vas-y, prends. Et là, petit à petit, hyper sympa.
À côté de la mer.
Ah là là.
Trop bien. Et alors là, t'as pas de vacances, t'as jamais de vacances. Mm-hmm. Hein. Quand t'as des vacances, c'est pour penser bébé, donc c'est pas vraiment des vacances. Et là, on arrive à la mer, il y a des vagues, des surfeurs, le bruit, bien, la chaleur... Waouh!
Mais on n'avait jamais vu la ville comme ça, en fait.
On n'avait jamais vu la ville aussi agréable. Et on s'est dit, mais en fait, on va se prendre des vacances, en fait.
Ouais.
En mode, et on va kiffer.
On fait quand même les examens. Et là, ils nous font une écho dynamique où elle met la sonde, elle attend comme ça pendant 5 minutes. Et ils prennent des images. Et après, ils regardent la vidéo. Et en fait, là, ils nous disent, l'utérus est contractile.
Pendant 10 minutes, en fait, il ne faut plus bouger. Plus personne ne respire, plus rien. Et
ça prend vraiment les mesures de ce qui se passe. Quoi.
Voilà.
Et là, ils nous disent, on doit vous rajouter...
De la progestérone et un médicament.
Et ils ont injecté dans l'utérus du bêta-ACG. Normal.
Ah ça, mon utérus, t'inquiète pas.
Non, mais c'est surtout qu'ils avaient déjà envoyé l'hormone de grossesse. Pour
avant.
Un peu feinter un peu le corps. Quoi.
Donc, 3 jours avant, vrai transfert. Donc, bon, ok. Et alors, moi, je peux te dire que j'étais trop contente. Je me dis, je vais avoir pour la première fois de ma vie cette hormone dans mon corps que j'attends depuis si longtemps.
Et ça fait rien.
Mais ça ne fait rien du tout. J'avais rien.
T'as pas vomi. T'as pas...
Non, je me suis pas sentie mal.
C'est
mais
comme à chaque fois, quand on attendait, j'ai dit, ah ouais, là, t'es 500 grammes aussi, je pense.
Le moindre petit peu de travers, tu penses que t'es enceinte. Mais là, du coup, on profite.
On profite
de la mer.
On était baignés dans les vagues.
C'est un peu fou pour nous parce que on se détend vraiment et
il y avait une piscine aussi.
Il y avait une piscine. Enfin bref, on a vraiment le contact avec l'eau et en rentrant, en fait moi pour je me suis arrêtée de travailler, mais j'ai aidé un couple d'amis à organiser leur mariage. D'accord. Mariage énorme. Donc, quand on rentre tranquillement après. Je mets bien mes pas de contention. Ouais. Bien sûr, je suis comme ça des toilettes, mais je ne vais pas aux toilettes. Tout va bien. Et puis, on fait. Et puis, j'organise le mariage. Je me dis, je me concentre sur le mariage parce que c'est 10 jours, c'est tellement long que là, je me concentre sur pas d'accompagnement de personne. Juste, je m'amuse à faire de la déco et de la créa.
Le mariage avait lieu 15 jours après le transfert ou 3 semaines après le transfert. Quoi. Donc, vraiment.
C'est ça. Donc, c'était une grosse période. Il fallait se concentrer sur le mariage. À fond. Donc très bien, je pense pas pendant 10 jours. Et puis voilà, Alison.
Puis voilà le jour où on doit faire
le jour des résultats, donc de la prise de sang, le jour,
midi,
le jour où tu respires
collègues,
pas.
Je suis pas là. D'habitude, tu fais la prise de sang le matin à 7h, tu as le résultat vers 11h, 11h30. Ouais. Donc je me dis, je rentre à midi, et puis comme le mercredi après-midi, je fais des domiciles, je dis, je mange avec toi, puis en fonction du temps, je partirai plus ou moins tard. Parce que de toute façon, on part pour. De toute façon, ça va être négatif. Donc, je viens avec toi le midi, comme ça, on a le résultat ensemble, on reste un peu ensemble, et puis après, je repars travailler. Quoi.
Le jour du résultat, c'est rare qu'on soit positive.
Ouais.
Le jour de la prise de sang, on est rarement positive.
Ouais.
Le jour de la prise de sang, on dit, bon, comme ça, je suis là pour t'accompagner pour les 2-3 pleurages, puis je repars travailler. Quoi.
Ouais. Et là, je rentre le midi, pas de résultat. Elle était allée dans un... Ah non, parce que
l'éternité,
il était midi. À un moment donné, il était presque 13h30, 14h.
J'avais fait la prise de sang à 7h30, je crois.
Puis moi, des fois, j'ai des personnes chargées, j'arrive à 13h05, ils me disent, vous êtes en retard. Bon, maintenant, ils ne me le font plus. Mais je dis, là, faut que j'y aille, quoi. Tant pis. De toute façon, pour un négatif, tant pis, on verra ça. Enfin, voilà. Donc, du coup, je pars, je bosse. Et puis
à 15h,
parce que c'est moi qui reçois sur mon téléphone les notifications, vous avez les résultats. J'ai envoyé un texto, on a les résultats. Puis moi, comme je suis à domicile, je conduis entre les trucs. Donc elle me dit, je regarde, ou on regarde ce soir.
Perdu pour perdu, de toute façon, il faut qu'on avance.
Ouais.
Faut qu'on avance, voilà. Et moi, j'ai jamais ouvert de prise de sang, vu que c'est Alison qui m'annonce les mauvaises nouvelles à chaque fois. Et donc là, j'ouvre.
Et tu sais pas ce que ça veut
dire. Je comprends pas ce qu'il y a écrit.
Elle me dit, ça veut dire quoi,
194 avec...
Bah c'est bon.
Et il y a écrit conditions favorables pour la grossesse, je sais plus. Et je... Putain, je suis enceinte.
En fait, c'était ta faute. Parce que c'est toi qui donnes les mauvaises nouvelles.
Ouais, voilà.
Et je suis mais non. Et dans un état, vraiment un jour de fou, quoi. Je me rappelle, je fais un vocal à la chiconette, parce que des chicompressés à Charlotte. Je suis en larmes. Ça a marché.
Ouais,
c'est un truc de ouf.
J'étais entre les domiciles et j'ai annulé mes... pardon, mes patients. je suis repassée par le cabinet. J'étais voir mes collègues et je les regardais comme ça avec mes grands yeux.
C'est tellement inespéré.
Mais non, et tout. Je pleurais et tout. Je rentre. J'ai annulé mes patients. Je suis rentrée.
C'est comme si on avait réalisé l'impossible. C'est comme si on avait réalisé l'impossible. Et c'est possible. Donc là, maintenant, c'est ton cerveau qui doit comprendre que c'est vrai.
Ouais.
Parce que c'était impossible. C'est vrai, ça se passe en vrai, c'est vrai. C'est un truc de fou d'avoir été dans cette démarche. Et d'un coup, en fait, à la seconde où tu lis le test positif, ta vie bascule. Mais tu dois basculer avec, mais tu bascules pas encore. Enfin, moi, j'ai mis du temps à basculer, quoi.
Tu trouves que cet épisode se termine un peu brutalement ? C'est normal. Nous fûmes interrompus par un problème de batterie après plus de 2 heures d'enregistrement. Mais ne t'en fais pas, l'histoire ne s'arrête pas là. La suite sera diffusée mardi prochain. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 21 février 2022, Fanny Trossa écrivait « Un podcast bien mené, intelligent et toujours sympathique à écouter, pour une parentalité décomplexée ». Je te remercie Fanny et je t'envoie un gros émoji cœur. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve ce vendredi pour un épisode bonus où Natacha raconte le traitement de son endométriose et ce qu'elles ont mis en place pour tomber enceinte. Et mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.